Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, de redémarrer un cycle de notre chaîne de Adia. À la veille de discours, c'est très important d'essayer de se préparer, parce que ce sont des dates, Rosh Hashanah, qui pour Pessah, sont des dates qui sont déterminantes pour toute l'année. Des grands rendez-vous importants. Alors, pratiquement les lois de Kippour, elles sont fondées sur un seul verset. Quand c'est marqué qui va yom azé yechaper alechem, letaer etrem mikol chatotechem yifne adonai kit aru. Qui va yom azé, car ce jour-là, yechaper alechem, va expier, va effacer, va pardonner sur vous, letaer etrem pour vous purifier, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, l'ifne Hachem, devant Hachem, qui t'a vous vous purifierez. Après, c'est marqué Shabbat Shabbaton, que Yom Kippour, il a appelé Shabbat Shabbaton, un Shabbat au carré, oui, c'est un Shabbat dans un Shabbat, il a fait pour vous, v'imitem et tafshotechem, et à ce moment-là, vous souffrirez, ça veut dire vous jeûnerez, pour katola, une loi éternelle. Alors, le personnage pratique en lui-même, quand on le décortique, quand on l'analyse, déjà, quand c'est marqué « Ki bayom azé, yechaper alechem » Alors, « bayom azé », si on traduit littéralement, ça veut dire « ce jour-là ». Car ce jour-là, « yechaper alechem », on effacera. Mais « bayom azé », ça peut aussi être traduit « par ce jour-là », grâce à ce jour-là. C'est ça que la Gemara dit « tsumo shel yom mechaper ». Le jour lui-même de Yom Kippour, il est mechaper, il pardonne. Et Rabbi, il dit « afilou bli tshuva », même sans tshuva. C'est marqué « Ki bayom azé yechaper alechem » Le jour lui-même, et ça c'est une chose qui est difficile à comprendre, parce qu'a priori c'est l'homme qui se rapproche d'Hachem, et ça provoque la teshuva. C'est bizarre que genre, j'ai pas besoin de l'intervention humaine. Et après c'est marqué « Nikol chatotechem » Ça aussi c'est une chose qui est difficile à comprendre, que toutes les fautes, elles peuvent être effacées en une journée. Celui qui connaît pas la gravité des fautes, il peut dire « C'est bien, c'est joli, c'est une religion sympathique, tu fais ce que tu veux pendant 364 jours, et en un jour, on a bonne savonnette, on efface tout. » C'est comme si quelqu'un il se prend des doliprane pour enlever un cancer. Bon, c'est mieux que rien, mais un médecin normal, il va te dire, écoutez, monsieur, bon, prenez-le quand même. Et c'est pareil, comment quelqu'un il peut imaginer, quand il réfléchit à la faute, comment elle marche la faute, l'amplitude de la faute, la touma de la faute, les conséquences de la faute, la dynamique de la faute, l'environnement mental de la faute, comment tout ça, ça disparaît. Pas ça, Yom Kippour. C'est marqué Nikol Chatotechem, et après c'est marqué Lifne Hachem Tit Aru. Devant Hachem, vous vous purifierez. Alors là aussi c'est pareil. D'un côté c'est marqué Kibayom Azé Yichaper Alechem, l'État est Rem. Donc ce jour-là, il va vous expliquer les fautes pour vous purifier. Et après c'est marqué Tit Aru. Alors Tit Aru, c'est vous purifierez vous-même. Alors d'un côté, on te dit que c'est le jour qui purifie, donc c'est Hachem qui purifie, d'un autre côté, c'est toi qui te purifie. Alors comment ça marche? Alors il y a un Kiliyaka, et là-bas il amène deux lectures. Quand c'est marqué Nifne, Hachem dit Ah, ou devant Hachem vous purifierez, il dit comme ça. Ki en Yom Kippourim mechaper ki im la shavim. Yom Kippour ne peut expier que les gens qui font teshuvah. Et avant que Hachem va expier la faute, Chayav kol adam l'ta'er atzmo, l'homme doit se purifier lui-même. Mikaf regel ve'adrosh, du pied à la tête, mikol tumat avon, de toute impureté de la faute. Les kach ne'emar l'ifne Hachem tit aru. C'est pour ça que c'est marqué devant Hachem vous purifierez. Donc maintenant il faut comprendre. Il s'est marqué que l'homme il doit se purifier avant qu'Hachem expie la faute. Donc il y a une différence entre la tahara, la pureté, et l'expiation. L'expiation, c'est effacer. Kapara, c'est on enlève, on disparaît, on fait disparaître la chose. Mais ici, c'est marqué que les choses, elles vont dans l'ordre. Et quand c'est marqué l'ifné, il dit le Kiliyaka, l'ifné ici, c'est pas devant Hachem, c'est avant Hachem. Parce que l'ifné, tu peux traduire en tant que devant ou en tant que kodem. Il dit l'ifné Hachem dit Aru. Ici, il faut traduire « avant Hachem Titaru », c'est-à-dire « avant que Hachem va effacer la faute, il faut d'abord que toi, tu te purifies. » Il dit « mais l'ifné, mais jamais la chône kodem ». Et ici, le mot « ifné », il est utilisé dans un langage de « d'avant ». Alors ici, il dit « on trouve aussi ça, encore plus que ça, dans le Sefer HaZohar ». Il dit quand c'est marqué Mipne Sevatakum, il y a une loi dans la Torah que quand on voit une personne âgée, on doit se lever. D'accord ? Devant la personne âgée, tu te lèves. Alors, mais le Zohar, il a une autre lecture. Au lieu de dire devant la personne âgée, tu te lèves, il dit avant la vieillesse, lève-toi. Oui ? Lifne, ici, encore une fois, ça veut dire avant. Pas devant, avant. Il dit chez Kodem, Zmana Seva, avant que tu arrives à l'âge de la vieillesse, que tu ne peux plus rien faire, il est tout fripé, oui. Yakuma Adam, Ishenat, Tardemato, un homme, il doit se réveiller, il doit se lever de son sommeil, la chour et la chaîne pour revenir à Hachem. Comme ça, il a traduit le Zohar, Mifne, Seva Takum, avant la vieillesse, réveille-toi. Alors il dit, et cette logique-là, que quelqu'un il doit se réveiller avant la vieillesse, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui a 90 ans. Oui. Parce que la vieillesse, vous savez, elle n'est pas forcément liée à l'âge des cellules. Il y a aussi la vieillesse dans la tête. C'est que quand quelqu'un il perd l'espoir ou quand quelqu'un il devient, on va dire, psychorigide, pour ne pas dire entêté, obstiné ou lourd, oui, qui s'appelle une forme de vieillesse. Alors tant qu'il a un peu de fraîcheur et qu'il est encore capable de bouger et de réagir, et tant qu'il est encore un peu sensible, en fait tant qu'il est encore un petit peu vivant, il faut qu'il fasse des choses. Ouais. Avant que tu deviennes vieux, même dans ta tête, avant que tu sois bloqué dans ta tête, avant que tu sois enfoncé dans des principes idiots, ouais, que même à 25 ans, on peut être comme ça. Même à 15 ans, on peut être comme ça. Des gens qui se sont enfermés, des gens qui se sont bloqués, des gens qui sont devenus vieux trop tôt. Parce que c'est quoi la vieillesse? La vieillesse, c'est l'étape avant la mort. Avant la mort, quelqu'un avant de mourir devient vieux, normalement. Oui. Donc maintenant, s'il existe une vieillesse, s'il existe une mort physique, il existe aussi une mort psychologique. Donc s'il existe une vieillesse physique, il existe aussi une vieillesse psychologique. Donc quelqu'un, il peut s'enfermer dans une logique de vieillesse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet, il y a une routine, et il ne s'investit plus dans les choses. Il n'essaye pas de donner de l'énergie dans les choses, parce qu'il est vieux. Quelqu'un, il peut être vieux dans sa tête très tôt. Alors toi, tu dois avoir ce sentiment-là, avant que tu deviennes vieux. Parce que tu sens, chacun d'entre nous, il a fait de la géométrie. Oui. Et la géométrie, il y a beaucoup d'enseignements. Que un point, c'est un point, deux points, c'est deux points, trois points, quatre points, cinq points, c'est une courbe. Maintenant, celui qui est capable de faire sa géométrie personnelle, sa géométrie de vie, c'est-à-dire, il regarde derrière lui, il ne voit pas où il est passé, mais il sait où il va, parce qu'il trace la courbe. Comme dans un couple, le gars il dit, écoute chérie, c'est une fille bien, oui, moi aussi je suis un garçon bien. Et tu vois, alors on se parlait, et maintenant on ne se parle plus. On souriait, on ne sourit plus, on ne fait plus rien ensemble. Les enfants, je m'en occupe, toi tu travailles, on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes amis, on n'a pas les mêmes choix. Tu crois que ça va se terminer comment? Là tu dis, si Dieu veut, à 140 ans, avec tous nos petits-enfants. Je crois pas. Je crois pas. Mais alors, pourquoi les gens, ils voient pas la courbe? La courbe. C'est-à-dire la direction que les choses, elles prennent. Et si quelqu'un, il prend ce recul-là, alors il peut voir comment elles évoluent et il peut se réveiller avant. Tu vois bien que le virage, il est bon. C'est un virage bizarre. Alors, ralentis. Parce que sinon, la voiture, elle va sortir de la route. Maintenant, les virages dangereux, il y a des panneaux. Ils te mettent « virage dangereux ». Eh bien, il y a des virages dangereux dans la vie. Il y a le virage de la quarantaine, il y a le virage de la crise d'adolescence des enfants, il y a le virage quand tu as été renvoyé de ton travail, il y a le virage de tu as une douleur dans les poumons bizarre. C'est des virages. Mais alors, celui qui est malin, avant le virage, il freine et il tient bien le volant. Alors, il va passer le virage comme il faut. Comme tu passes le virage de la quarantaine, et tu passes le virage de l'adolescence, et tu passes le mariage du dernier, et tu... Il y a plein de virages dans la vie. Il y a avant le virage. Et le virage aussi, attention, parce que c'est une étape qui peut être aussi une étape de vieillesse. Donc quelqu'un, il doit avoir cette clairvoyance, cette clarté d'esprit, d'anticiper sur les événements pour ne pas passer sa vie à être surpris. C'est ça la différence entre les intelligents et les idiots. Les idiots, ils sont surpris. Et les intelligents, ils s'attendent aux choses. Ils anticipent. Tu anticipes. Ouais. Comme tu as 50 ans, et ben tu vas voir un cardiologue, tu fais un peu attention à ce que tu manges, tu arrêtes de prendre du sel, tu fais un peu de sport, c'est un peu intelligent. Et tu dis non, j'attends l'arrêt cardiaque pour prendre des bonnes résolutions. Il y a des gens comme ça. Tu vois que tu es en surpoids. Tu vois que tu manges n'importe quoi. Tu vois que tu... Ouais, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a la force d'anticipation et dans chaque chose. Oui. Tu vois qu'il n'y a pas d'avenir avec cette fille. Elle est tombée. Ah bah écoute, peut-être, elle va changer, peut-être, il va venir, peut-être. Tu perds le temps. C'est combien 6 mois, laisser ça suffit. Oui, mais on ne sait jamais. Je vais lui laisser le temps, je veux qu'elle comprenne, je veux qu'elle revienne. C'est-à-dire que tu es déjà vieux. Déjà, tu es vieux dans cette histoire. Déjà, tu as perdu l'espoir dans cette histoire, tu t'es enterré dans cette histoire. Alors tu vois que ça ne change jamais. Tu vois qu'il n'y a rien à faire. Tu vois que c'est profond. C'est pas un problème de caractère, c'est un problème de nature. C'est sa nature, elle est comme ça, c'est une nature. Maintenant, si t'es adapté, t'es adapté. Mazal Tov, si t'es pas adapté, va-t'en. Parce que de toute façon, tu vas partir. Ah, tu vas partir dans 10 ans avec 5 enfants, c'est dommage. C'est que les gens, ils ont des... Hier, j'ai fait un Shabbat plein dans le 16e. Il y avait 250 personnes. Un beau Shabbat. Il y a une femme à la fin qui est venue me voir. Elle m'a dit, ah, mais tu sais, il faut que je vous parle. Je dis, écoutez, moi, je suis épuisé. J'ai fait 6 conférences. Je suis juste avant le coma, là. Je suis juste... Elle a les mots, tu vois. Mon corps, il marche, mais moi, je suis déjà au lit en train de dormir après la douche. Ouais. Elle m'a dit, faut que je vous parle. Elle dit, voilà, j'ai 17 ans de mariage. Elle m'a dit, la semaine du mariage, une semaine après, j'ai dit à mes parents, c'est pas lui. Ils m'ont dit, non, ça va s'arranger. Ça s'est pas arrangé. Qu'est-ce que je dois faire? Ça fait 17 ans. C'est pas 3 semaines, c'est pas 3 jours, c'est pas, oh, t'es encore jeune, donne-toi une chance. Écoutez, là, je suis un peu fatigué pour réfléchir. On va l'appeler demain, si vous voulez. Mais en réalité, je sais pas vraiment quoi lui dire. Moi, je lui dis, bon, j'ai entendu que votre version, peut-être c'est vous le monstre, on va voir avec l'autre. Et tu vois, comme il y a la vieillesse du corps, il y a la vieillesse de la tête, il y a la vieillesse du couple, il y a la vieillesse de l'enfant, il y a la vieillesse du travail. Même un business, il peut évoluer vers la vieillesse. Il dit, bon là, je crois qu'on a tiré le maximum, il faut faire autre chose. Hein. Non, on va continuer, on va s'enfoncer, on va encore mettre 100 000, encore 400 000, il y a, c'est fini, c'est mort. C'est fini, on a le filon, on a tout pris. Il faut faire autre chose. Non, il s'entête. Mais celui qui s'entête, souvent il se ment. D'ailleurs on dit l'entêtement.
Oh. Nous sommes italiens, mais c'est pas...
En italien ça marche pas.
C'est pas la même chose. C'est pire, capitaine.
Quelqu'un qui est entêté, ouais. Quand il s'entête, ouais. C'est qu'il se ment à lui-même. L'entêtement.
Oui, j'ai compris. Non, tout que
c'est pour ça qu'on a pas réussi à traduire le livre. Pas. Donc ça veut dire quoi? Et ça, c'est ce qui est marqué ici. Maintenant, après, le Keliyakar, il continue, et il dit un autre langage. Ça, c'était le premier langage, que l'Ifne Hachem, ça veut dire avant, que d'abord, tu dois te purifier, et après, Hachem, il va effacer la faute. Et il donne un autre langage. Il dit, Titaru, c'est quoi? L'Ifne Hachem, Titaru. Il dit, Vainu, l'Ifne, Bo, Yom, Agadol, Vanoa. Donc, avant qu'arrive le grand jour. Attends, là-bas. Ah, non, ça, c'est la fin de ce qu'on a dit avant. Après, il dit l'Ifne Hachem. Qui a davar à Massour l'élève. C'est quoi l'Ifne Hachem? Pourquoi c'est marqué devant Dieu? Ouais. Donc maintenant, c'est plus avant, c'est devant. Il dit l'Ifne Hachem. Qui a davar à Massour l'élève et non iglé qui im l'Hachem levado. C'est quoi? Qui bayomazé chaper l'Echem, les arrêtés de l'Ifne Hachem. Parce qu'en vérité, ça, c'est une chose qui se passe à l'intérieur de toi-même. On a déjà expliqué un million de fois que Ravester, il explique toujours que à l'aise et à Metsiout, le cœur, c'est la réalité de la personne. Et la personne, elle sait quand elle a prié, elle sait quand elle n'a pas prié, elle sait quand elle était sérieuse, elle sait quand elle pense qu'elle dit, elle sait quand elle se moque de l'autre, elle sait quand elle est vraiment sincère, c'est ça. Ça s'appelle Ifne Hachem. Il dit d'avoir à ma sur les lèvres une chose qui en vérité dépendante du cœur, qui est transmise au cœur, et non iglé qui im l'Hachem levado. Shelo iye minat vuim. Qu'un homme, il ne doit pas faire partie des gens qui sont colorés, ouais, atzamim, qui jeûnent, ou mita'anim, ou marbim techinod, et qui crient, et qui prient, Hachem, Hachem, kedeshiyum ou zakim le tzadikim, pour qu'on leur donne une image de tzadikim, ve'u, d'obtahor, bene avriot, c'est un niveau extraordinaire aux yeux des créatures, mais, ou mitso'ato apnimit l'orachat, mais de sa saleté intérieure, il ne s'est pas lavé. Ça, c'est une maladie très grave dont il faut essayer de se soigner le plus tôt possible, qui s'appelle le regard de l'autre. Le regard de l'autre. Combien tu vis en fonction du regard de l'autre? Ouais, parce qu'à la maison, tu n'arrives pas à te concentrer, et qu'à la synagogue, tu deviens le sadique pendant la mida. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'en vacances, qui est très cool, et à Jérusalem, tu deviens un hassid. Ça veut dire quoi? Parce que très très tôt, toujours je vous donne cet exemple, c'est comme un enfant, il tombe. Alors vous êtes dans la salle à manger, et l'enfant il est dans la chambre. Et vous entendez, il court, un enfant il a 3 ans, il court, il tombe. Bah ouais. Mais il pleure pas tout de suite. Et après, une minute, il se met à pleurer. Pourquoi? Il a vérifié. Est-ce que ça vaut le coup de pleurer? Est-ce que j'ai un public qui va m'entendre pleurer? Quel pleur je dois faire? Un pleur de j'ai mal, un pleur de j'ai une crise de tête, un pleur de... Parce que quand t'as mal, tu pleures tout de suite. Pourquoi pleure pas tout de suite? Il vérifie d'abord s'il a un public. Et tu entends le pleur de Tminik, ou le vrai pleur, là il a vraiment mal là. Mais c'est un petit pleur comme ça. Comme ton mari le soir, ouais. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne elle-même, elle doit savoir comment elle ressent les choses. Maintenant, pendant l'année, tu es comme tu es, mais le jour de Kippour, ça ne peut pas marcher. Ouais. Maintenant, encore une fois, c'est très très difficile parce que perpétuellement, on est dans le regard des autres. Perpétuellement, c'est, comme je dis toujours, c'est très très dur de ne pas poser quand le photographe il te fixe. Oui, c'est un mariage, j'étais après en train de parler avec un copain, il vient le photographe, tu essaies de donner ton meilleur profil. C'est une photo. Quand les gens disent, ah non, pas cette photo, jette-la cette photo. Non, c'est pas moins moche si on jette la photo. Hein. C'est toujours aussi moche, mais là, c'est pas sur la photo, là, c'est... J'ai jamais compris ça. Ah non, c'est là, j'ai de la. T'es ciné 24 heures sur 24, qu'est-ce que tu veux d'une un centième de seconde que tu as été attrapé? Ouais. C'est la vie, c'est pareil. C'est que quelqu'un, il doit fonctionner en, par rapport à son intériorité. Il est ciné HM. Mais s'il ne s'est pas soigné de cette maladie psychiatrique qui s'appelle le regard de l'autre, et qu'il essaye toujours d'être dans la tentation, en fin de compte, de faire plaisir, de se faire aimer, de se faire apprécier, mais il peut avoir un vrai problème. Peut-être qu'il sera aimé, mais peut-être qu'il n'aura jamais été lui-même. Peut-être qu'il n'aura jamais été lui-même, parce qu'il aura été toujours ce que les gens avaient besoin de voir de lui. Mais lui, il n'est pas né. C'est un vrai problème. Parce qu'après, moi je vois des gens, par exemple, des enfants, ils font une bêtise, alors ils veulent l'engueuler, alors ils me regardent. Pourquoi tu me regardes? Engueule ton fils. Genre, tu fais ça devant le rave? Attends! Ouais, encore hier à la synagogue, il y en a rentré. Alors, il a accepté. Maintenant, je ne le connais pas. Lui, il ne le connaît pas. Maintenant, il voit que je suis rave. Il voit une barbe. Alors, son fils, il arrive, il lui tape sur la tête. Prends un livre! Et moi, je voulais lui dire, tu sais, c'est pour moi, il ne faut pas le frapper. Hein, S'il n'a pas pris de livre, c'est pas parce que je suis là. Quand tu le frappes, ouais, c'est parce que toi, tu l'as pas éduqué à prendre un livre. Et peut-être tu l'as éduqué à être hypocrite. Mais il n'est pas assez rfif pour toi. C'est pas un hypocrite rapide. Tu voudrais qu'il soit hypocrite plus rapide. Comme toi, qui est très rapide. Ouais. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la personne, qu'elle réussisse vraiment à être devant Hachem. Elle n'est pas devant les autres. Mais c'est très difficile. Comme si moi me pose une question. J'ai deux solutions. Ou je fais plaisir à la personne ou je dis la vérité. Alors des fois je demande, qu'est-ce que vous voulez, je vous fasse plaisir ou je vous dis la vérité? Alors, les gens disent, non. Ça dépend. Il y en a qui ne veulent pas la vérité. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui veulent. C'est pareil, vous, est-ce que je dois vous dire ce que je veux vous dire ou je dois vous dire ce que je dois vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vous dis ce que je dois vous dire ou je dis ce que je veux vous dire? Maintenant, peut-être que si je dis ce que je dois vous dire, peut-être que la semaine d'après, le mois d'après, il n'y aura plus personne. Hein. Ils vont dire, oh, vraiment, il est trop, on voudrait un rabbin plus sympa, plus cool, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Réunir tout le monde en fait, c'est ça le projet, d'accord. Mais on ne peut pas, parce qu'on veut grandir, on veut évoluer, on veut comprendre, on veut changer, on veut être vivant, on veut être inscrit dans le livre des vivants. Maintenant croyez-moi que quelqu'un qui a un comportement de mort et quelqu'un qui a un vécu de mort, c'est pas la peine qu'il prie d'être inscrit dans le livre des vivants. C'est pas... Et même si on l'inscrit, c'est comme si le gars il va pas à l'examen et après il va voir dans la liste s'il est marqué qu'il a réussi. Mais t'y étais pas. Mais quand même, il va voir, on sait jamais. Peut-être qu'ils ont fait une erreur, ils l'ont mis. Ingénieur, ça y est, il a réussi le concours des ingénieurs, il est là comme ça en train de regarder les listes. Pas mon nom, il n'y a pas mon nom, les gars, ils disent, excuse-moi, mais je t'ai pas vu à l'examen. Oh, je suis pas venu, quel rapport? Tu viens pas à l'examen, tu veux être inscrit. Donc toi, tu vas être dans la liste des gens vrais et tu sais que tu es un menteur. mais tu pries qu'Hachem il me marque parmi les gens qui sont vrais, alors que je sais que je suis un menteur. C'est qu'il y a une espèce de baratin. Vous voyez, une espèce d'embrouille comme ça. Où il faut être clair, il ne faut pas avoir peur. Oui, tu sais pourquoi Zokhenu Mikhaïm? Parce qu'il y a Nikhaï. Oui, Anichaï, regarde, je bouge, je réfléchis, je me remets en cause, je suis élastique, je suis prêt à faire. Mais si tu dis non, moi je veux pas changer. Moi, comme j'étais mort l'année dernière, je vais être mort l'année prochaine. Les mêmes avérums, les mêmes bêtises, les mêmes lourdeurs, les mêmes limites, les mêmes petitesses, les mêmes incohérences, les mêmes ignorances, la même chose. C'est comme une tombe. Une tombe, quand tu viens, tu la vois. Quand tu reviens, c'est la même. C'est rare qu'elle change de forme, de couleur, de marbre. C'est une tombe. C'est ça qui s'appelle Beit HaChaim. Donc si quelqu'un, il pense qu'il est vraiment une tombe, pourquoi il veut être marqué dans le livre de la vie? Ben là, il pense pas. Il espère. Il va dire, ah, mais dans ta chaîne... Tu veux gagner de l'argent, va travailler. Ah, si Dieu veut. Mais va travailler. Tu veux t'arranger avec ta femme, va t'excuser. Ah, pourquoi c'est moi? Alors, continue à faire la gueule. C'est-à-dire que quelqu'un, il est lui-même, il n'est pas dans une dynamique de bouger, de construire. Mais c'est ça le jardin. Qu'est-ce qu'il a dit le Khatam Sofer? C'est vrai, c'est fort. Il a dit, tu sais, quand c'est marqué Sifre Chaim, des Sifre Metim, ou Nachim des Fanecha, les livres des vivants et les livres des morts sont posés devant toi. C'est pas comme on lit d'habitude, comme je vous ai enseigné déjà 99 fois, que le livre des vivants, d'accord, c'est des certaines personnes qui sont vivantes, et le livre des morts, c'est certaines autres personnes qui sont mortes, les morts vivants, les fumeurs, les tout ça, ouais. Non, lui il dit, Sifre Chaim, Sifre Metim, c'est la même personne. Maintenant, toutes les mitzvot qu'elle fait avec la vie, avec la hatlavut, avec l'amour, avec la kavana, avec la crainte d'Hachem, on le marque dans Sifre Chaim. Et toutes les mitzvot qu'il fait comme un zombie, comme un robot, comme un hadada, on le marque dans Sifre Metim. Oui, mais on marque dans Sifre Metim. Cette mitzvah, là, tu veux que je la compte? Quand tu faisais, tu as mis les téfilines en vérifiant les emails, tu veux que je la compte? Quand tu as fait toute l'armida en pensant à la voisine, tu veux que je compte cette armida, là, c'est sûr? Quand tu as été mangé cachère parce que c'était marqué en hébreu et que tu as bien vu que le serveur il était coca-human. C'était à Tel Aviv, le mec il était là avec des piqûres là, il te dit. Quand tu as été cachère, maman, le pauvre Israël, moi, ta mère. Et toi, tu voyais le jambon accroché.
Coca-human, c'est chez nous,
man, coca-human. Ah, bah, c'est coca, quand même. Donc, c'est quoi l'idée? C'est-à-dire que quand toi-même, tu vois que tu te moques de toi-même. Chacun il peut regarder chaque mitzvah qu'il a fait, et est-ce qu'il pense que cette mitzvah, il faut l'écrire dans les livres des vivants ou les livres des morts? C'est comme si tu fais mal ton travail. Tu sais que tu as fait mal ton travail, tu le sais. Ne dis pas, pourquoi vous me payez la moitié? Heureusement qu'on ne paye pas la valeur du travail, on paye les heures. Mais si on paye la valeur du travail, on te met un truc, un scanner sur toi, et là on voit que tu as glandé là. Non monsieur, tu n'as rien fait, je te paye pas. Tu vois, tu as pris le téléphone, mais tu n'avais pas la conviction quand tu as parlé au client. Ah, tu veux que je te paye? Mais c'est sûr que la vente n'allait pas se faire. Imagine, un jour, on va leur mettre comme ça un scanner, comme ça, sur eux. Et quand ils vont prendre le téléphone, allô, bonjour, je représente la pharmacie Hlala. Vous en voulez? Bah, si vous n'en voulez pas, c'est pareil. De toute façon, je finis dans une demi-heure. Imagine, on scanne ça. Tu veux que je te paye? Tu veux que je te paye? Non seulement tu ne travailles pas, mais en plus, tu me casses ma société, tu veux que je te paye? Alors pourquoi le patron? Le patron, ce patron-là, il voit que tu fais rien. Tu crois que ce patron-là, il voit que tu fais rien? Il voit pas que tu fais rien. Donc si quelqu'un il veut être inscrit dans le livre des vivants, il faut qu'il soit vivant. C'est facile. Oui. C'est pas des idées, peut-être je vais être vivant. Peut-être qu'il y en a qui croient que je suis vivant. Peut-être que je donne bien l'illusion d'être vivant. Non, d'être vivant, c'est facile. Et ça s'appelle d'avoir à ma sourde l'élève. Il n'y a que la personne elle-même qui peut savoir. Oui. Il n'y a que toi, tu as fait une amida, tu as fait une bonne amida ou non, tu le sais. Tu le sais. Tu as suivi tous les mots, tu as traduit, tu as pensé que à Hachem. Tu as réussi à faire ça? Ça s'appelle l'Ifne Hachem. C'est ça l'Ifne Hachem. Ata l'Ifne Hachem. Ici, c'est ça la logique. Alors ici, le Sforno, encore une fois sur le même passou, il dit comme ça. Vein. Ve Ataam chez Tistachou, im ze gam shvitat veinu yom. Pourquoi Yom Kippour? il faut, on doit faire Shvita Tayom, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tous les travaux qui sont interdits le Shabbat, et en même temps, il faut le Rinouï. Oui, il faut aussi jeûner. Il faut jeûner, il faut qu'il y ait cette souffrance-là. Ils disent qu'il emmena ma Kohen Be'avodato, Traperalem. De toute façon, le Kohen, il va faire la Kapara. C'est le Kohen Gadol qui va faire la Kapara. Alors pourquoi ? On va dire, au moins à l'époque du Beit HaMikdash. Donc, il y avait la Kapara du Kohen. Pourquoi est-ce que nous, on a besoin d'avoir cette Kapara personnelle ? Il dit, mais Inyan, à Kippour, c'est-à-dire l'expiation, ou Aktanat Achet, c'est de rapetissir le Chet. Ve'achanato le Kabel Sricha. Et c'est une préparation pour recevoir le pardon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi qui crée le réceptacle. Ici, ça veut dire une chose incroyable. C'est qu'en vérité, nous-mêmes, comme je vous avais dit une fois, le Ramchal, il explique que l'homme ne fabrique pas la Kedusha. L'homme, il crée un tuyau pour amener la sainteté. Oui, lui, il met des téfilines, par exemple, et ces téfilines, c'est comme un tuyau qu'il a créé qui va lui faire qu'il va recevoir. C'est comme quand toi, tu allumes ton téléphone, tu ne crées pas le signal, il existe. Mais toi, tu as un appareil pour le recevoir. Et bien, dans toute la vie, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des circonstances qui permettent de recevoir le signal d'Hachem. C'est comme si toi, à la maison, tu es gentil avec ta femme, tu es gentil avec ton mari, tu mets le chaleur, tu fais attention à ce que tu dis, tu réfléchis avant de parler, tu souris, tu es positif, tu es sympathique, tu es rigolo, tout ça. En vérité, c'est quoi tout ça ? C'est un ustensile pour faire venir la Shekhina. Ouais. Tu mets le câblage, tu mets l'électronique pour pouvoir réceptionner le message. Comme quand tu veux te marier. Les gens veulent se marier, les célibataires, en général. Parce que les gens mariés, c'est dangereux. Ouais. Donc les gens mariés, les gens célibataires, ils veulent se marier. Alors que j'ai réfléchi, c'est important la Yirat Shamayim, c'est important qu'elle soit jolie, c'est important qu'elle me plaise, c'est important qu'elle vienne d'une belle famille, c'est bien important qu'on ait le même niveau social, c'est important de... Mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de faire un cahier des charges qui va ressembler à ce que toi tu veux, ou tu vas créer un ustensile qui peut recevoir l'intervention divine ? Parce que de toute façon, sur les millions et les millions de filles, de tomber sur la bonne, c'est que la main d'Hachem. Ça va ? Donc est-ce que toi, tu vas fabriquer un keli pour recevoir l'intervention divine ? Oui ? Et comme une radio, c'est une petite radio, il y a des petites radios, des radios, mais tu entends quand même France Culture. Tu entends RTL, tu entends tout, ouais. Tu entends Radio Milan, tu entends. C'est une petite radio, mais tu entends. Oui. Maintenant, derrière Radio Milan, mais tu te rends compte, il y a des centaines de techniciens, il y a des artistes, il y a des chanteurs derrière, il y a des concerts, il y a des trucs. Tu te rends compte tout ça dans la petite radio. De là, tu vois qu'une chose extraordinaire, c'est que le message, il est beaucoup plus puissant que l'appareil pour le recevoir. Donc même si tu es très 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 intelligent, très très puissant, très très malin, très psychologue, tu ne feras de toute façon que 5% du poids. C'est seulement est-ce que tu vas fabriquer le récepteur. Ouais. C'est pour ça que la bracha, toujours qu'on fait, chez Ishré, Shekhinato, Bemaase Yadechem, qu'elle réside, la présence divine, dans vos actions. Ouais. Que la présence divine réside dans vos actions. C'est que nous, on fait des actions, mais après, dedans, il faut envoyer la présence divine. Toi, tu fais le shalom baït, mais Hachim, il t'envoie le shalom. Que la femme, elle supporte, et elle accepte, et tes absences, et ta difficulté, des fois ton caractère, et toi aussi, que tu comprends qu'en ce moment, elle n'est pas bien. Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche ? Les gens, ils croient parce que psychologiquement, nous avons mis en place. Il y a des gens, ils ont tout pour réussir, et ils se déchirent toute la journée. Parce que la dernière chose, c'est le bon Dieu qui va la faire. Le courant qui passe, toi, tu as pu installer toutes les tissus dans la maison. Mais s'il n'y a pas le DF qui t'envoie le courant, il n'y a pas de courant. Vas-y. Moi, je m'en fiche, Tu sais combien j'ai payé l'installation ? Tu sais combien ? 400 000 euros. D'accord ? Mais il n'y a pas de courant ici. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'il n'y a pas de courant. Et c'est pareil. Si toi et ta femme, vous avez l'intelligence, la richesse, la gentillesse, la douceur, la beauté, les qualités morales, tout, mais le courant ne passe pas, qu'est-ce que tu vas faire ? S'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas de sentiment, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu dis, non, écoute chérie, c'est dommage de divorcer, on a tout. Oui, moi, quand il manque le principal, qu'est-ce qu'on fait avec le reste ? Ça, c'est exactement pareil. Ça, il finit Hachem. Oui ? Qu'est-ce que je raconte ? Il dit, oui, c'est ça. Il finit Hachem. Il dit, Aval, Asagat, Asahara, Veaslicha, Agmura, qui est la Lifnei Hashem Bilvan. C'est-à-dire que l'homme, en vérité, il y a la Tahara, la purification, après il y a la Kapara, et après il y a la Slicha. Après il y a le pardon. Comme quelqu'un qui a fait une grosse bêtise. Ouais. Il t'a pris 3 000 euros. Maintenant, il vient, il te dit, je m'excuse, j'ai pris 3 000 euros. Il rend les 3 000 euros. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que la chose, elle est effacée. La preuve, essaie le lendemain de lui emprunter 3 000 euros. Du coup, baba. Ouais. Comme il t'a planté 100 000 euros, et après il vient et te dit, Shana Tova. Nous, Shana Tova, nous, Mechina, Mechina. Déjà, je ne te tue pas. C'est déjà pas mal, je ne te tue pas. Déjà. C'est bien, tu vois en plus que je te fais Shana Tova. Mais normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Alors, si tu ne comprends pas que tu peux être mochel avec l'autre, comment tu crois qu'Hachem va être mochel avec toi? Donc, soit tu penses que ce que tu as fait, c'est pas grave, soit tu penses qu'Hachem, il est un peu simplé. C'est un des deux. Je dis non. La slicha, le pardon, elle vient après la kapara. Et la kapara, elle vient après la tahara. C'est-à-dire que toi, t'as bien nettoyé, t'as bien... Oui, t'as fait une tache sur le vêtement, va le laver. Mais tu le laves, et il reste encore une petite auréole. Ouais. Et après, si tu as enlevé tout, tu peux dire à la personne, écoute, tu sais le costume que tu m'as prêté. J'ai fait une belle tache dessus. Maintenant, je l'ai bien lavé, je l'ai bien truqué. Je t'en prie, est-ce que tu peux me pardonner? Je vais te pardonner. Mais tu as déjà lavé le costard. Comprenez, tu ne sais pas, écoute, si en fait je l'ai taché, bah, tu me diras combien ça coûte. Hein. Je crois que c'est un problème d'argent. Je t'ai prêté un costume neuf, je l'ai sorti pour le mettre, tu m'as dit, je t'en prie, je vais à un mariage, passe-le-moi. Il est neuf, je ne l'ai jamais mis, il est neuf. Toi, tu me fais une belle tache de ketchup. Après, tu me dis, je l'ai lavé. Et alors, tu l'as lavé. Il n'est plus pareil, il n'est pas neuf. Après, tu me dis, j'ai enlevé les auréoles. Vous avez compris la logique? Ouais. Je l'ai lavé, c'est la tahara. J'ai enlevé l'auréole, c'est la kapara. Mais il faut encore que moi j'accepte de te faire la slicha. Comme des gens ils me disent, mais Rav, j'ai écrit, bon c'est vrai, j'ai trompé ma femme. Mais expliquez-lui, c'est fini, je ne recommencerai plus. Moi je peux faire que toi, tu pleures et tu meurs et tu crèves. Mais te dire que t'assurer qu'elle va pardonner, ça, je ne peux pas t'assurer. Mais pourquoi si je ne recommence plus? Mais on dit en français, le mal est fait. C'est une logique. Maintenant, comment ça imprègne la réalité? Comment ça imprègne le cœur? Est-ce que c'est parce que maintenant on a peur que la personne elle recommence ou alors qu'elle est polluée dans son image ou alors qu'elle pense qu'elle ne connaît pas l'autre? Mais en tout cas, maintenant, il y a quelque chose qui a été fait. Donc on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. C'est pour ça que la slicha, le pardon, c'est un miracle. Je dis encore une fois, plus quelqu'un y réfléchit à la gravité de la faute, et plus il va voir que le pardon, c'est un miracle. C'est un truc qui n'est pas normal. Alors maintenant, pourquoi est-ce que nous, on va avoir droit à un miracle? Est-ce qu'on mérite un miracle? J'ai fait Rosh Hashanah, j'ai fait un don, j'ai écouté le chauffard, après j'ai fait Avinu Malkenu. Maintenant c'est Kippour, donc normalement j'ai rempli toutes les conditions. L'autre aussi il était à la fac toute l'année, hein. Toi tu étais à la fac, il était à la fac. Mais lui il a crevé sur les livres, et toi tu étais en boîte en donné toute l'année, et là, un mois avant tu t'es mis à travailler. Tu crois que vous allez avoir le même résultat? Et même si les deux vous avez le diplôme de médecine, tu crois que vous êtes les deux les mêmes médecins? Lui qui a crevé toute l'année, qui a travaillé comme un fou, et toi qui n'as rien foutu, qui a compté sur ton intelligence, tu crois que vous êtes les mêmes médecins? Tu crois que vous êtes les mêmes? Tu es sûr? C'est vrai. Et dans tout, c'est pareil. Je crois que les enfants éduqués et les enfants pas éduqués, ils sont les mêmes. Ah, parce que l'autre, il tient debout, il se coiffe, mais il n'est pas éduqué. Si le fond n'est pas éduqué, c'est que tu n'as pas travaillé la mida, on revient sur ça, on travaille sur ça, on enlève l'orgueil, on enlève la bêtise. On développe la fraternité, la force de travail, la concentration. Si on ne l'a pas fait, tu crois qu'il va être la même chose que l'autre qui a réussi sans le faire? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est est-ce qu'on est là pour utiliser des outils qu'on a déjà, ou est-ce qu'on est là pour devenir quelqu'un grâce aux outils que Dieu nous a donnés? Toujours le Midrash, il donne cet exemple. C'est quelqu'un, il veut rencontrer le roi. Alors il va pour rentrer, et il a un costume Conforama, c'est-à-dire... Alors, Alors le gardien dit, oh, tu vas te... Je dois parler au roi, c'est très important. Je dois lui parler. Tu rentres pas, tu regardes comment tu habilles. Ah, il est dehors, comme ça, il s'envoie, s'il voit le roi au bas, alors ça me bordait. Ah, il voudrait bien rentrer et tout ça. Alors, il y a un monsieur qui le voit, il dit, c'est quoi ton problème? Il dit, écoute, je veux absolument parler au roi, mais seulement je suis... J'ai pas le costume, j'ai rien. Il dit, viens, viens avec moi à la maison. Il va, il l'emmène. Hugo Boss, Yves Saint Laurent, Hermès. Ah, le gars, il vient, il sort. 70 000 euros sur lui. Il est bien. Alors, il arrive, le gardien, il voit qu'il est bien habillé. Monsieur, allez-y, il vous apporte. Et l'autre, il rentre. Et le roi, il est là. Et au lieu d'aller voir le roi, il commence à frimer. T'as vu? Il va voir ses copains. Regarde comment il est. Et comment il tombe là? Tu sais comment ça coûte, ça? Tu sais comment ça coûte? Tu sais? C'est comme les Africains, ils gardent les tickets. T'as vu? Regarde, regarde. Pendant 2 heures, le bal se termine, le roi il s'en va. Alors il ressort, il dit alors, le gars, il dit alors. T'as parlé au roi? Il a dit quel roi? Quoi, mais t'es fou, quoi. Tu m'as pleuré ta mère, que tu pouvais pas rentrer parce que t'avais pas le costume. On t'a donné le costume, t'es rentré, t'as pas parlé. C'est quoi le costume? Le bal, c'est ce monde-ci. Le roi, c'est Hachem. Et l'homme, il a un costume sale. On lui prête, c'est-à-dire on lui donne l'intelligence, on lui donne la finesse, on lui donne la Torah, on lui donne une famille juive, on lui donne Eretz Israël, on lui donne tout ce qu'il faut pour rencontrer le roi. Et lui, le vrai, il frime pendant 2 heures. Regarde, tu sais comment je suis intelligent, moi? T'as vu tout l'argent que j'ai? T'as vu ma femme? Tiens, tourne-toi. Tout trop bête, hein, ça m'a coûté. Hein. D'accord? Mais c'est pas possible. Mais on n'est pas là pour frimer, on est là pour produire. Toi, des enfants, tu les fais après l'autre, toi, t'es dans l'élevage, toi, il faut les éduquer. Toi, tu es content, 8, 9, 12, 13, 14, 19, oh, 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 il faut les éduquer, c'est pas des bouteilles de confect, il faut les... pas des veaux, ouais, il faut le faire. Et comme tu le fais avec les enfants, comme tu le fais avec toi-même, c'est-à-dire que tu fais ce travail à l'intérieur. Il dit, mais ça, encore une fois, c'est la tahara. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il, vraiment, vraiment, il réfléchit à ce qu'il a fait. Il essaie de se séparer de ce qu'il a été, il essaie vraiment de changer à l'intérieur. Il essaie de ressentir, de pleurer, de se prendre la tête. Parce qu'il veut plus, il veut plus cette vie, il n'en peut plus cette vie, il veut plus. Ouais, il ne veut pas vivre comme ça. Maintenant, quand quelqu'un, il n'en peut plus d'une vie, donc il meurt de cette vie-là, c'est là qu'il vit une autre vie, c'est là qu'il revit une autre vie. C'est-à-dire que la capara, ouais, il faut faire très attention aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les alchètes qu'on doit lire, il y a tous les alchètes de la... C'est ma journée aujourd'hui. Donc, dans les alchètes qu'on doit lire, il y a un alchète bizarre. Oui. Tu sais, il y a plein de alchètes qu'on doit lire. Ouais. Il y en a un, il s'appelle Alchet Shechatanu Bevidouipé. C'est bizarre. Alchet Shechatanu, sur le chet que nous avons fait, Bevidouipé. C'est quoi Vidouipé? C'est-à-dire que c'est un vidouille que tu as fait avec la bouche, mais pas avec le cœur. C'est ça. Il y en a 5 des vidouilles à Kippour. Tu sais, au bout d'un moment, ça, c'est que les gens qui font un chantier. Moi, j'ai un vidouille de 5 pages. 5 pages. C'est-à-dire chaque mot, ouais, il y a toutes les avérotes qui commencent par la première lettre, ouais. C'est-à-dire que quand tu l'as fait 2 fois, tu... Après, tu dis, bon, cet avéra, je l'ai pas fait, je l'ai fait dans un autre guilboule, je profite, je l'ai dit quand même, ouais. Je dis, quand quelqu'un fait ça, il doit en même temps exprimer la faute, mais ne pas tomber dans le vide, la parole vide. C'est pour ça que les Ashkenazim, ils ne font pas vidouille toute l'année, ils font un vidouille que à Kippour. Parce qu'il a dit le gamin de Vilna, on a peur à la fin de faire un vidouille pour rien. C'est ce que tu dis là. Si tu as fait une grosse bêtise envers quelqu'un, tu ne peux pas lui dire, oh, écoute, excuse-moi, je t'ai planté, j'ai violé ta soeur, je t'ai pris 100 000, j'ai tué ton père, allez, on en reparle, on se voit pour le billard. Attends, qu'est-ce que tu as dit là? Qu'est-ce que tu as dit? C'est normal. Tu parles, baby douille p, tu parles comme ça, que la personne, elle doit ressentir. Donc le fait, en tant que séfarade, de faire tous les vidouïms, oui, ça t'oblige à nouveau à te resensibiliser à chaque fois pour ressentir la chose. Pourquoi? Parce que le travail du vidouï, c'est pas d'exprimer la faute, c'est d'exprimer la faute. Exprimer, c'est extérioriser, c'est faire sortir. Donc c'est comme si on t'a dit, tu sais quoi? Comme le dentiste, il t'enlève la carie. Il gratte. Donc toi, tu veux faire sortir la chose. Et tu dis, moi, j'ai plus rien à voir avec ça. Maintenant, c'est comme c'est très court, c'est difficile. Vous voyez, quand il dit, il va dire, Ganafti, Mamon Aferim, j'ai volé l'argent d'autres. Mais il faut qu'il profite de ce mot-là, de Ganafti, Mamon Aferim, pour aller fouiller à l'intérieur de lui. Ganafti, Mamon Aferim, pour aller au fond de la carie, aller déraciner complètement la chose qui n'a plus rien à voir avec elle. Normalement, c'est la force de la parole. Que quelqu'un, en parlant, il se désolidarise de la chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mitzvah de teshuvah, mais il y a une mitzvah de bidouille. C'est dit le Rambam. Et que le principal de la mitzvah de teshuvah, c'est le bidouille. Pour ça, toujours, je vous donne cet exemple. Pourquoi quand un enfant, il a fait une bêtise ou quoi, pourquoi tu veux qu'il reconnaisse? Il a fait la bêtise, d'accord? Il a volé les 5 euros dans le porte-monnaie de sa mère. Donc elle dit à son père, le père il a simplement dit, bon, t'as volé 5 euros, évidemment, il dit, non, c'est pas moi, normal, tous les enfants, ouais, même à 40, 50 ans, il dit, ouais. Donc il dit, c'est pas moi. Après tu dis, écoute mon fils, il y avait la caméra de surveillance, il y avait un seul billet, on l'a retrouvé dans ta poche, il y avait une croix dessus, on sait que c'est celui-là, on sait que c'est toi, donc c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Maintenant réfléchissez. Le père, il sait que c'est l'enfant, d'accord? L'enfant, il sait que c'est lui. Sinon, il faut qu'il arrête de fumer. D'accord. Donc l'enfant, il sait que c'est lui. Et l'enfant, il sait que le père, il sait. Et le père sait que l'enfant sait que le père sait. Donc tout le monde sait. Ça va? Alors pourquoi il a besoin que le fils y reconnaisse? J'attends. C'est toi qui l'as pris? J'attends. Pourquoi tu as besoin? Ça n'a rien. Pourquoi faire? Oui. Au niveau psychiatrique, ça sert à rien. De la même manière, quand Adam Arishon il a fauté, Hachem il est venu, il a dit Hayeka. Et Adam Arishon il s'était caché derrière un arbre, parce qu'il était tout nu. Alors Hachem il a dit Hayeka, où es-tu? Mais Hachem il a créé l'œil. C'est pas qu'il a créé la caméra, il a créé l'œil, il voit pas. Il voit tout, il est partout, il sait pas où tu es. C'est bizarre la question. Quand Caïn il a tué son frère, Hachem il est venu, il a dit, t'as pas vu ton frère? Mais il sait très bien où il est. Alors il dit, Rachid, pourquoi est-ce que Hachem, il a posé la question? Ça ne servait à rien la question. Et il a dit, l'item pitron pe. L'item pour donner pitachon pe, pitron pe, une ouverture de bouche. Pour qu'il puisse ouvrir la bouche. Pour qu'il puisse ouvrir la bouche. Voilà. Oui. L'item pitron pe, la asotchouva. Maintenant, quand quelqu'un, il ouvre la bouche, il va parler. Et quand il va parler, qu'est-ce qu'il va faire, en fait? Il va se désolidariser du mal. Parce que quand tu fautes, le mal, il est là. Maintenant, moi, je voudrais bien parler avec toi, mais moi, je ne peux pas parce qu'il y a le mal entre toi et moi. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois te séparer du mal. Le mal, il est là. On n'a pas nié que le mal, il existe et il a existé. Le mal, il est là. Mais toi et moi, on est bien. Mais tant qu'on reste dans le mensonge, ou on reste dans le... Ouais, alors automatiquement, ça fait ça, ça fait une séparation entre l'homme et Hachem. De la même manière, je veux que l'enfant y reconnaisse. Pourquoi? Parce que mon enfant c'est un sadique, mon enfant c'est un enfant extraordinaire, mon enfant c'est un diamant. Seulement, son Yetzara, il a emmené volé. Oui? Donc maintenant, moi je veux que lui, l'enfant sadique, il revienne. Et comment il fait? Il se débarrasse de cet acte de vol, parce qu'il dit, j'ai volé, ça y est maintenant, le vol il est là, et lui et moi on va s'arranger. Mais s'il me ment, s'il me dit, mais pas du tout, mais moi j'ai un problème maintenant. C'est que moi, je croyais que j'avais un enfant sadique. Maintenant, je vois que j'ai un enfant voleur et un enfant menteur. Donc, je n'ai pas mon enfant en face de moi. Ça va? C'est pour ça qu'on veut qu'il reconnaisse. Pour qu'il enlève la chassidza, il enlève la séparation. Mais un homme séparé lui-même. Quand un homme, il a fait une bêtise, par exemple, il doit le reconnaître pour lui-même. Pourquoi les meurtriers, d'accord, ils sont en procès et quand ils ont reconnu, La famille de la victime, elle dit, maintenant on est soulagé, et le gars lui-même, le dernier argument qu'on a pour le faire parler, pour le faire avouer, c'est de lui dire, tu vas te sentir mieux après. C'est le même principe. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que la force du Yetzer Hara, c'est qu'elle t'identifie au mal. Elle t'identifie au mal. Et quand toi, tu t'identifies au mal, tu te sens mal. Mais sachez que la peur, par exemple, c'est la conséquence de l'identification au mal. Parce que c'est à cause des avérantes qu'on a peur. Et la maladie, c'est la dégénérescence de l'identification au mal. C'est que tant que quelqu'un ne se débarrasse pas de la culpabilité qu'il a en lui, ouais, cette culpabilité, elle va aller en lui jusqu'à le rendre banal. Donc il faut parler. C'est pour ça que c'est bien quand quelqu'un il se soigne, qu'en parallèle il fasse une thérapie si c'est quelque chose de grave. Mais s'il dit non, je continue la chimio. Fais la chimio, mais va parler, va sortir ton problème, va te débarrasser. Parce que tu crois qu'il est venu par hasard. C'est du stress, c'est du mal vécu, c'est de l'angoisse, c'est des nerfs, c'est des peurs. Des années de peur, t'as peur. Mais tu crois que la peur, ça n'amène pas des conséquences dans les cellules, bien sûr. Maintenant, si quelqu'un il se sépare de la peur, pourquoi? Parce qu'il fait la différence entre la conscience du danger, la conscience du problème et l'angoisse du problème. Ouais. Il y a un problème avec cet enfant, c'est vrai. Ouais. Mais j'en suis conscient. Mais je ne vais pas m'angoisser. Il y a aussi une femme qui est venue, maintenant ça fait 15 ans que je la connais. Son fils, il est passé par des trucs très très durs. Et maintenant, Baruch HaShem, il est bien, il est dans le travail, il commence à faire tes chouvas et tout ça. Elle me dit, mais j'ai attendu jusqu'à 3h du matin. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, mais j'ai peur, je suis sa mère. Je dis, mais il a 8 ans, non? Je dis, non, il a 21 ans. Mais non, il a 8 ans. S'il me reste jusqu'à 3h du matin, alors que pendant 2 ans, il est parti en Bolivie. Ça ne dit même pas où il était. Donc la personne, elle se rend malade elle-même. Maintenant, de savoir si elle se rend malade parce qu'elle a un enfant difficile, ou est-ce qu'elle se rend malade pour qu'on s'occupe d'elle, ça devient compliqué au niveau psychologique. Ouais. C'est le dernier argument du chantage émotionnel, c'est « t'as rendu ta mère malade ». Mais non, on nous a donné des néchamotes, on les a confiés, on fait tout pour eux, et après, comme le Hadou Mazalo, tu vas faire ta vie, tu vas être bien, comme je t'aime, le bon Dieu il t'aime, il aime tous les béné Israël, moi aussi je t'aime comme tu es, mais je ne vais pas me rendre malade pour toi. Maintenant, est-ce que toi tu es capable de faire ça même avec toi-même? C'est-à-dire que même toi-même, parce qu'une force du Yetzer Hara, c'est de te rendre triste. Et la tristesse, elle vient de la culpabilité. Donc comment tu vas faire, attention, pour sortir de cette tristesse? Eh bien la sortie de la tristesse, c'est la preuve de l'accapara. Ça va? S'il y a eu l'accapara, il n'y a plus de tristesse. C'est comme ça. Parce que sinon, ça veut dire que le virus, il est encore là, il est encore en train de tourner, en train de travailler. Il dit, la personne, elle fait ce travail. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on a rendu l'argent. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on a réparé le truc qu'on a cassé. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on a demandé pardon. C'est pour ça qu'on se sent... Pourquoi on se sent bien? Pourquoi? Parce qu'on est lavé de la culpabilité. Or, la force du Yetzer Hara, c'est que... Avant la faute, il te rend inconscient, et après la faute, il te met une culpabilité qui te paralyse. Et c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est qu'après ta mort, tu ne peux plus te débarrasser de la culpabilité. Comme quelqu'un qui a tué, il dit, mais je l'ai tué, il m'a énervé, j'ai tué. Après toute sa vie, là, il voit son visage, là, il fait des rêves. Pourquoi? Tu l'as tué. Non, c'est pas que t'as cassé un crayon. Ouais, t'as détruit une vie. Alors cette vie-là, elle va te poursuivre jusqu'à la fin. Maintenant, elle n'a pas besoin, elle, de venir après toi. C'est ta culpabilité à toi qui crée ça. Donc ça veut dire que dans la vie, un homme, il doit vivre de manière à ne rien avoir à regretter. Il n'a rien à regretter. Tout ce qu'il a fait, c'est droit. Tout ce qu'il a fait, c'est clair. Tout ce qu'il a fait, c'est cachère. Il n'y a pas de problème. Comment on appelle cette manière de vivre où tu n'as rien à regretter? Ça s'appelle la halakha. C'est facile. Ça fait la halakha. Vous me suivez ou non? C'est ça, quand les gens ils croient très loin, école de vie, approche philosophique, sens, essentialité. Non, la halakha. Ça fait la halakha. C'est que les gens ils savent pas que quand on dit la tzigoula, ta Torah, que la Torah elle contient tout. Mais je donne un exemple. À la fin de la parasha Tisavot, c'est marqué. Parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie et de bon cœur. Et ça fait partie des malédictions. D'accord? Alors toi tu dis, mais je comprends. Alors toute la question, mais c'est pas, si déjà j'ai fait les mitzvot, c'est déjà pas mal, si je les ai pas fait avec la joie c'est un plus, la joie... Non, moi je vous donne une autre lecture. Une autre lecture. Mais l'incroyable, je l'ai entendu là, jeudi dernier d'un très grand rabbin. Écoutez cette lecture. il dit, t'as pas compris. Tu sais pourquoi? C'est pas que parce que tu as fait les mitzvot sans la joie, c'est pour ça que tu es puni. Non, c'est que tu, si tu es triste, si tu n'as pas la joie, c'est parce que tu as pas fait les mitzvot, tu n'as pas fait les choses pour la mitzvah. Je donne un exemple. Le gars maintenant, il achète une maison. D'accord? Oh, il a dit à sa femme, carte blanche, chérie, achète la maison, prends-la toi, tiens, va, Sylvia, voilà les 800 000 euros, va nous acheter un deux pièces. Le gars, ben, il a de l'argent, il a donné l'argent. Il arrive là-bas, il dit, les chambres, elles sont petites, hein. Ben, tu m'as donné carte blanche. Dommage, la terrasse, pourquoi ils sont gros? T'as une maison, non? Tu voulais pas te casser la tête? Elle a tout fait pour toi? Toi, tu viens, tu t'assois. Pourquoi t'es triste? Pourquoi tu fais la tête? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu dis, ça aurait pu être différent, ça aurait pu être mieux? Alors qu'en réalité, c'est quoi la référence d'un juif? Tu sais quelle taille elle doit avoir une maison pour être bien? La taille qu'il faut pour mettre une mezouza. Donc si toi, tu as une pièce qui fait 4 mètres sur 4 mètres, 2 mètres sur 2 mètres, et tu peux mettre une mezouza, mais t'es le plus heureux des mondes. Toi, tu peux mettre 2 mezouzotes? Tu peux mettre 19 mezouzotes? La villa Césarée, tu peux mettre 19 mezouzotes? Waouh! Tu dois être heureux. Si ta référence c'est la maison, tu vas t'angoisser parce que tu diras toujours que tu as pu avoir mieux, parce que c'est la matérialité. Mais si ta référence c'est la mezouza, on a pu faire la mezouza, c'est bien. Il dit celui que tous ses actes, il les fait pour la mitzvah, il n'est jamais triste. Parce que la tristesse, elle vient de la matérialité. Je ne sais pas si vous suivez. La tristesse, elle vient de la matérialité.
C'est-à-dire que
la tristesse.
Mais avant,
ah voilà. Si quelqu'un, il fait tous ses actes qu'il fait, il les fait pour la mitzvah. D'accord? Tout pour la mitzvah. Tu veux des habits? Bien sûr, tu veux des habits. Pourquoi? Pour te couvrir. Parce qu'il faut être sain noir. Non, toi, tu veux pas des habits pour te couvrir. Toi, tu veux des habits pour être un panneau publicitaire. Toi, tu veux Kenzo, tu veux Hermès, tu veux truc. Ah, donc, alors c'est toujours triste. Ah, mais l'autre, il a un plus beau costard que moi. Mais non, tu mets des habits pour te couvrir. Il y a une mitzvah de Sniout, tu t'habilles pour te couvrir. La sobriété, la finesse, voilà, c'est tout. Tu t'habilles comme ça. Quelqu'un qui s'habille pour la sobriété, s'appelle qui s'appelle comme un juif. Celui qui s'appelle pour frimer, alors il s'habille comme un esav. Mais non, c'est très, très dur.
C'est le mousin, c'est différent.
D'accord. Mais essayez de vous imprégner parce que c'est un très grand rigueur. Sachez que nos enfants, s'ils sont superficiels, c'est parce qu'on n'aura pas appris à faire les choses pour la mitzvah. Vous me suivez ou non? Si tu étudies la Torah, parce qu'il faut étudier la Torah, parce que c'est une mitzvah, c'est une chose. Mais si tu étudies la Torah pour l'intelligence, et bien un jour ça t'intéresse. Que tu dis, je trouve que les maths, ça rend plus intelligent. Et l'autre, à la yeshiva, il fait des maths en cachette. Parce qu'il a perdu le fil conducteur. Le fil conducteur, ça doit être là. C'est ça, tacha, tacher, loa, vadeta, et tacher, besimcha. C'est-à-dire que si ta simcha, elle vient de la mitzvah, tu n'auras jamais de problème. Donc la pire des malédictions, c'est la matérialité. C'est ce qui m'a fait d'abord. C'est la matérialité la malédiction. C'est la klala. C'est la malédiction. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu as enlevé la spiritualité. Il reste que la matérialité. Et la matérialité ne génère pas de joie. Les gens disent j'ai bien mangé, mais maintenant j'ai mal au ventre. J'ai bien bu, mais j'ai mal à la tête. J'ai dépensé un argent fou. Et en fin de compte, cet argent, il n'a aucun sens. Il aurait voté avec son mariage, il aurait pu payer 23 mariages. Imagine, tu vas à 23 mariages, que c'est toi qui les as payés. Tu vas, tu dis, oh, ils sont contents, là, là, là. Ouais, et toi, avec les 23 mariages, tu as fait un mariage. Et tu as fait une soirée comme ça, et les gens, ils disent, oh, quelle classe, hein. Tu aurais pu faire 23 mariages sur ton. Tu as 23 hatanim qui viennent, ils pleurent, ils te disent, bah, mais la simcha, les 23 parents qui viennent, 23 enfants qui viennent, les frères et sœurs, les milliers de personnes. Oh là là, mais grâce à vous, quand la cavote, vraiment. T'as remplacé ça pour une soirée pour frimer avec tes copains. Quelqu'un va dire, bah, si le bon Dieu m'a donné. Moi je connais des gens, ils ont fait 400 personnes au mariage, ils ont dit au traiteur, tu fais 400 repas en plus, il a fait 400 repas aux pauvres. Le même mariage, vous avez compris? Il a dit 400 pour nous, 400 pour les pauvres. Il dit, non, c'est déjà quand même certaines sommes. C'est pas des sommes, c'est summits. C'est pas des sommes, c'est des sommes. Ça veut dire que toi, tu veux que chaque chose que tu fais, elle a un sens. Tu mets la mitzvah dedans. Ouais. Tu mets la mitzvah dedans. Tu fais une troupa, tu veux qu'il y ait une bracha. Il faut que les gens y partent avec quelque chose. Tu fais un shabbat rafale, tu veux qu'il y ait des cours à l'intérieur, que les gens y partent avec quelque chose. Ouais. Tu fais n'importe quoi. Les gens, ils font avec quelque chose. D'accord. Tu fais une simcha, tu fais un truc à la synagogue, tu fais n'importe quoi, tu fais un camp de vacances, tu fais un séjour au ski, tu mets un sens, tu mets le caractère de mitzvah. Et c'est ce caractère de mitzvah qui amène les choses. Et c'est ça que les gens ils vont retenir à la fin. Ils vont pas dire la neige, elle était bonne. Hein. Ils vont dire, oh là là, ça m'a remis en cause, j'ai bougé, j'ai grandi, j'ai évolué, moi, je me suis rapproché de ma femme, oh, t'as gagné, ça fait. Donc qu'est-ce que tu as donné le caractère de mitzvah à la chose? Il dit, ben, ce caractère de mitzvah, alors maintenant c'est une grande question. Est-ce que le caractère de mitzvah, il vient parce que tu as donné un caractère de mitzvah ou parce que tu as sacrifié le rôle? Vous me suivez ou? Et le sacrifice du rôle, c'est le sacrifice de la matérialité. Et comment on appelle le sacrifice de la matérialité? La capara. Donc toi, quand tu jeûnes, ouais, et que tu viens pas avec tes Weston, et que tu t'es pas parfumé, et que tu viens dans une anava que de ne pas te faire remarquer, mais en fait, tu fais la capara. C'est ça la capara. Et maintenant, il ne faut pas jeûner pour jeûner. Ça, je vous l'ai déjà dit un million de fois. Les gens qui jeûnent, à qui court, ils ont faim. Les gens qui jeûnent, ils ont faim. Vous savez ça. Les gens qui jeûnent, ils ont faim. Mais les gens qui prient, ils n'ont pas faim.
C'est vrai.
Confirmation par notre expert. D'accord ? C'est incroyable. Mais tu dis, mais attends, c'est naturel. Je veux dire, attendez. Scientifiquement, médicalement, quelqu'un qui ne mange pas, il a faim. C'est vrai ? Oui, non. Non, c'est faux. Regarde, même si c'est pas Kippour, un gars qui aime son travail, le matin, il prend un café, jusqu'à 9h du soir, il n'a même pas pensé à manger. Il n'a même pas faim, il a une pêche, il casse les murs. Mais le gars qui s'ennuie, oh, j'ai envie de prendre quelque chose là. C'est ça. Les employés, ils ont toujours faim, et les patrons, ils n'ont jamais faim. D'accord. Non, j'exagère, tout le monde sait que c'est plus grave. Mais c'est ça l'idée. Pourquoi? Parce que tu n'es pas porté par le projet. Tu n'es pas investi dans la chose. Et c'est exactement pareil. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que toi, tu viens pour quelque chose, tu viens pour prier, tu viens pour te rapprocher d'Hachem. Maintenant, pour cela, tu as sublimé ta matérialité. Et tu n'as même pas senti que tu avais faim. Et bien, c'est ça la capara. Pourquoi? Parce que comment tu t'es éloigné d'Hachem? Comment tu as fait la véran? Tu sais pourquoi? Parce que tu as mis la matérialité en priorité. Pourquoi tu as fauté? Parce que tu as mis le matériel en priorité. Donc c'est quoi la capara? C'est de mettre la spiritualité en priorité. C'est en elle-même la capara. C'est pour ça qu'on dit que la capara, c'est la proximité avec Hachem. Maintenant, si quelqu'un y jeûne, et si quelqu'un y prie, et si quelqu'un y a la synagogue, et si quelqu'un y fait un don de 50 000 euros, mais il ne se rapproche pas d'Hachem, il jeûne pour maigrir, il prie parce qu'on le regarde, et il fait un don pour frimer. Alors, oui. Havalon la kesef. Dommage, l'objet principal. Il a pas le... Ça va?
Frimer, c'est-à-dire se
faire voir. Oui. Alors si c'est ça, non, j'ai même pas commencé. On va continuer un peu avec ça ce soir. Comment on va rater le cours du sport?
Alors nous on a fait un mitra, on a fait un mitra, on n'a pas fait un mitra.
Je ne peux pas être obligé.
Non, alors nous on sortait,
ouais, c'est un truc qui vont faire. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit le midrash. Le Midrash il dit, Imaïta, alors il dit comme ça le Midrash, Imaïta, ah oui, alors, il y a le Cheskouni, un commentaire aussi sur le même passage qui dit comme ça, Ki bayom azé yechaper alechem, d'accord, car ce jour-là, il expira pour vous. Darash, Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Eliezer ben Azaria, il a appris de ce pasouk. Mikol chatotechem lifne Hachem titarou. De Hachem, il va t'expier. De toutes tes fautes, devant Hachem, tu seras purifié. Alors, quand c'est marqué Mikol chatotechem lifne Hachem, on a dit que parce qu'Hachem, c'est lui qui va purifier. Mais lui, il découpe différemment. Il dit Mikol chatotechem lifne Hachem. Ce sera seulement les fautes qui concernent Hachem, qui sont lifne Hachem. Il dit Varim, Sheben Adam, les Akadosh Bohu, Mochalim Lo. Les fautes qu'il a fait envers Hachem, on lui pardonne à Yom Kippour. Maintenant, Shebeno, les Ben Chavero, par contre, les choses qui sont entre lui et son ami, En Mochalim Lo, Hachifa Yeseu, on ne pourra lui pardonner que s'il va séduire la personne, il va demander pardon à la personne. Donc maintenant, on arrive à une autre partie, c'est qu'on a parlé beaucoup par rapport à soi-même, par le lien entre l'homme et Hachem, mais maintenant, on fait intervenir une autre notion qui est le fait que quand les fautes, la différence entre les mitzvot, l'averot, ben adam, la makom et ben adam l'achavero, que quand les fautes elles sont envers l'autre, alors à ce moment-là, elles ne seront acceptées que si l'autre, elles seront pardonnées que si l'autre te pardonne. D'accord ? Alors il y a un midrash là, incroyable, il dit comme ça. Imaïtak tata ben adam l'achavero. S'il y avait une querelle entre un homme et son ami, ketad, comment ? Ketad mitkaperlo, comment est-ce qu'il va être pardonné ? Comment est-ce effacé ? Ben yama kipuri, il dit comme ça. Kar shanu rabotinu, comme ça ils ont expliqué les chachamim. Averot chez Ben Adam Lamakom, les fautes qui sont envers Hachem, Yom Kippur Akipuri Mechaper, Yom Kippur efface. Ve'im, Averot chez Ben Adam Lechavero, par contre les Averot qui sont envers un autre, En Yom Akipuri Mechaper, Yom Kippur ne peut pas pardonner, Adshir Tsechavero, jusqu'à ce que son ami va l'accepter, va le pardonner. Ve'im Alach Lirtsoto Velokibel, maintenant s'il a été pour demander pardon et l'autre il ne veut pas dire pardon, il ne veut pas pardonner. Maya, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors on dit, il dévie à Sarah. D'abord, il va aller trois fois, et après, il va amener 10 personnes. Et devant les 10 personnes, il va demander Mechila, il va demander pardon. Et si, encore une fois, le gars, il ne veut pas, alors il est exempté. Alors il dit comme ça. Le Midrash, il continue, il dit comme ça. Ve akadosh boku roe chez Mashpil Atmo. Hachem, il voit que la personne s'est rabaissée pour demander pardon. Ouais. Ou Mechaper le avolotaz. Et alors, à ce moment-là, il va lui effacer les fautes. Pourquoi ? Chez Kolzman, chez Adam, bisdono, enim chanino. Parce que tant que l'homme est dans son dono, c'est-à-dire dans son zadon, zadon c'est mesil, tant qu'il est dans cette logique-là de rébellion, de rejet, on ne lui pardonne pas. Alors, c'est très bizarre. Parce qu'on ne comprend pas. Si, déjà, pourquoi on fait une différence entre les avérotes qu'on fait envers l'autre et les avérotes qu'on fait envers Hachem ? De toute façon, les deux, elles sont marquées dans la Torah. Dans la Torah, elle a dit ne fais pas Elul Hachem, ne transgresse pas Shabbat, et la Torah, elle a dit ne vole pas ton prochain. Donc, de toute façon, c'est les deux, Hachem a donné les deux. Oui. Alors, qu'est-ce que ça peut faire que la Vera, elle avait un mode d'application que envers Dieu, ou un mode d'application envers l'homme. Mais de toute façon, je l'ai fait envers Dieu, parce que c'est Dieu qui a ordonné. C'est bizarre. Après, même si l'autre n'est pas Mokhel, d'accord. Donc, si on a dit que la Mechila, elle dépend de l'autre. Donc, si l'autre ne m'a pas pardonné, comment elle vient à la Kapara ? Parce que je comprends pas. Ou on a besoin du pardon, ou on n'a pas besoin. Si on a besoin, alors si l'autre ne le donne pas, il n'y a pas de Kapara. Alors, comment tu dis, bon, c'est pas grave, on va quand même se faire la Kapara. Je comprends, on fait la Kapara, alors donc vous n'avez pas besoin de demander pardon, alors. C'est bizarre. Après, c'est quoi aussi ? C'est que, alors, c'est, en fait, c'est une Gemara dans Yoma d'Afkar Gimel, Amoud Aleph, elle dit comme ça. Quand la Mahadir al-Midotav, Mahadirino al-Kol Peshaal. Tout celui qui prend sur lui, Mahadir al-Midotav, c'est-à-dire qu'il dépasse ses midot, c'est-à-dire qu'il dépasse ses droits, alors qu'il passe sur ses droits, on lui passe sur toutes ses avérotes. Parce que quelqu'un, maintenant, il m'a marché sur le pied. Alors, moi, j'ai le droit d'aller m'énerver, de crier. Et je dis rien. Ouais. Je dis rien. Alors, maintenant, puisque moi, j'ai rien dit, alors Hachem, il dit, puisque tu n'as rien dit, on t'efface tes fautes. Alors la même question elle est, moi c'est un truc que j'ai avec quelqu'un, ouais, et j'ai pris sur moi, je ne me suis pas énervé. Et là c'est un problème que j'ai avec Hachem, parce que j'ai pas mis les téfilines hier. Maintenant pourquoi est-ce que le fait que je m'énerve pas avec mon copain, ça va m'effacer la vera que j'ai pas mis les téfilines ? Ça n'a rien à voir. Ma virino, alcool, péchard, en plus c'est marqué. On lui passe sur toutes ses avérotes. Alors pour comprendre ça, il y a un autre texte qui dit comme ça. Kona medagdek beotiot shel kriat shema. Tout celui qui va faire attention en lisant le Kriyat Shema de bien lire chaque lettre, ouais, on lui refroidit l'enfer. Il y a l'enfer, c'est l'enfer. L'enfer, c'est pas une boîte de nuit, l'enfer, c'est ouais, les flammes et les chalumeaux et le sourire de sa belle-mère. Enfin, l'enfer, d'accord. Et d'un autre côté, il y a le Kriyat Shema. Bon, alors le Kriyat Shema, il y a une mitzvah de lire le Kriyat Shema. Maintenant, dans le Kriyat Shema, tout le monde sait, il y a une halakha qu'il faut faire attention à chaque lettre. D'accord ? Tu dis Shema, Israël, Hashem Elokeinu Shema, avec un Aïn. Parce que si tu dis Shema, Israël, avec un Aleph, ça veut dire peut-être Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad Shema, de peur que Hachem est notre Dieu. Ouais. Si tu dis Olo Rondo Bechrolevafrem, c'est pour le servir de tout votre cœur. Sinon, si tu dis avec un Aleph, c'est Olo Ovdo, c'est pour le perdre. Pour perdre Hachem, ouais, pour le détruire de tout votre cœur. Enfin, attention. Donc la prononciation du Kratchema, elle est très importante. Maintenant, on a déjà expliqué à peu près 118 244 fois que chaque mitzvah, elle a un yetzara spécifique. Par exemple, comme la Amida, c'est une mitzvah de se concentrer dans la prière, donc il y a un yetzara pour penser à autre chose. Là, il y a des gens qui se servent de la Amida pour penser à autre chose. Ça les détend. Ouais. C'est comme si c'est une mitzvah de se concentrer, donc il y a un yetzara de se déconcentrer. Dans le couple, comme il y a une mitzvah de faire un, donc il y a un yetzara de faire deux. Les malentendus, les angoisses, les stress, les intérêts personnels, l'orgueil, l'amour propre, la lourdeur, ta mère, ton père, ta mère, mon frère, ma soeur. Ouais. En fait, comme il y a une mitzvah de faire un, donc il y a une yetzara de faire deux. Et dans le Kriyat Shema, comme il y a une mitzvah de dire doucement, donc il y a une yetzara de dire doucement. Tu vas dans les synagogues, les gens, ils font les mizmorim. Et le Shema. Mais lisez un peu plus vite les mizmorim. Mais faites le Kriyat Shema doucement. Non, le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que comme il y a une mitzvah de lire doucement, donc la personne, non seulement qu'elle milite, mais elle avale des mots et elle pense à autre chose. Elle ne sait pas si elle est dans le premier paragraphe ou dans le deuxième, à chaque fois, elle ne sait plus. Ouais. À chaque fois qu'elle dit Shema Yisrael, elle oublie d'être Mekabel Ol Malkout Shamaim. Donc elle recommence, et c'est à jour, et elle recommence tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire que le Yitzhara, il est prévisible. Ça va? Maintenant. Cette logique-là, quel rapport on a dit entre le fait que quelqu'un il va être médagdec, qui va faire attention, et ça va lui refroidir le guillemin. Maintenant, pour comprendre ça, il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est le guillemin. C'est quoi l'enfer? Les gens, ils croient à l'enfer, ouais. Non, l'enfer, c'est très simple. L'enfer, en fait, c'est un endroit où tu ne pourras pas combler toutes les frustrations que tu t'es créées de ton vivant. Ça va? L'enfer, c'est l'endroit où on ne peut plus combler les frustrations qu'on s'est créées de son vivant. Par exemple, le gars, il aime la bouffe. Donc l'enfer, c'est quand il n'y a rien à manger. Celui-là, il aime bien se mettre en colère. Donc l'enfer, c'est quand il ne peut pas se mettre en colère. L'autre, il fait 2m12, il dit bon, on va se calmer. Ouais, il arrive. Ouais. Celui-là, il adore faire du lashon hara. Donc l'enfer, c'est on y est jiva avec des tzadikim, il n'y a rien à dire. Tu peux pas raconter un truc sur quelqu'un? Non, je peux pas. Pas devant le rat, quand même. C'est l'enfer. Donc c'est quoi l'enfer? En fait, l'enfer, c'est l'endroit de la frustration. C'est pour ça que l'enfer, il s'appelle Olam HaChisaron, le monde du manque. Ça va? Maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il crée chez la personne? Lui-même, il crée le manque. Maintenant, le Yetzer Hara, c'est le meilleur vendeur du monde. Parce qu'au lieu de te proposer un produit en espérant que tu vas l'aimer, il te crée le besoin avant de te proposer le produit. Donc il te met une fragilité dans ton couple, il te met en relief des défauts de ton mari, et il te fait rencontrer quelqu'un qui a exactement les qualités que ton mari n'a pas. Et toi tu dis, c'est vraiment, c'est Mina Shamaïm, alors qu'en fait c'est Mina Satanim, mais tu n'avais pas l'anticipation, d'accord? Tu vas mal parler à ta fille pendant une certaine période, et elle va rencontrer un garçon qui va lui parler très gentiment. Alors que c'est le contraire qu'il fallait faire. Il fallait que toi, tu dragues ta fille, comme ça, comme elle est amoureuse de son père. Quand l'autre, il vient lui dire, t'es charmante, t'es délicieuse, t'es magnifique, t'es extraordinaire, elle dirait, j'ai déjà mangé, j'ai pas besoin. Mais si toi, tu la casses, tu lui parles jamais, et tu lui fais que des reproches, l'autre, ses compliments vont être appréciés. Donc, l'appréciation des compliments, elle vient du stress et de la mauvaise parole que tu lui as fait toi. Donc c'est toi qui as créé le terrain de la Avera. Après tu dis oui, elle sort, elle truc, elle fait des bêtises, et j'ai peur qu'elle fasse des Avera. Pourquoi t'as peur? C'est toi qui l'as foutu dedans. C'est toi qui l'as envoyé en boîte de nuit, tu te demandes pourquoi elle fait. C'est pas fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, ça c'est très très important, elle doit être toujours dans une logique où elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire et de ce qu'elle est en train de générer. En même temps, les deux en même temps. Maintenant, si on dit que le Yétserara, il fait ça, c'est-à-dire qu'il crée le manque, et il crée l'impulsion. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te pousse à faire, et à l'extérieur de toi, il y a quelque chose qui te propose. Maintenant, c'est tellement confortable. C'est comme quand tu vois un stylo devant toi, avec le bouchon, et le... Eh bien, tiens, un réflexe, tu prends le stylo, tu mets le bouchon. On t'a rien demandé, mais tu le vois. Tu vois la poubelle à côté, tu vois le couvercle, tu remets. C'est c'est un besoin de réunir les choses, de combler les choses. Ouais, ben, c'est exactement pareil. Toi, si tu n'as pas appris cette maîtrise, c'est-à-dire que tu n'es pas encore capable, tu n'as pas assez de recul sur toi-même pour sentir quand une impulsion, elle vient de toi ou elle ne vient pas de toi. Est-ce que c'est une impulsion qui est saine ou qui n'est pas saine ou qui n'est pas sainte? Si tu n'es pas capable de faire ça, ça veut dire que les Yetzara, il maîtrise ta vie. Il maîtrise tes humeurs, il maîtrise tes nerfs, il maîtrise tes malentendus, il maîtrise tes incohérences. Et toi, tu es en train de courir en perpétuellement, en train d'essayer de réparer, en fin de compte, des choses que tu n'as même pas créées. Alors que tu dois réfléchir. Je vais parler, est-ce que c'est du lâcher à ras, pas du lâcher à ras. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, est-ce que je le pense vraiment? Je vais m'investir, est-ce qu'au fond je veux le faire ou alors c'est parce qu'on me regarde? Si tu es capable de faire ça à chaque fois, donc tu pourras décider si c'est ton yétsara ou si c'est toi qui maîtrises ta vie. Maintenant je vous dis la vérité, les trois quarts des gens, ils vivent dans une logique d'impulsion. D'accord? Ils voient de l'herbe, ils broutent. Ou ils fument, ça dépend de leur âge. D'accord? Oui. Donc c'est quoi cette idée? C'est que le yétsara, il crée l'impulsion. Maintenant, quand la Torah, elle dit que celui qui est libre, c'est celui qui est cholet al retsonotav, c'est celui qui maîtrise ses volontés. D'accord? C'est-à-dire que si tu marches, tu es un homme marié, gentil, sympathique, et tu entends à côté de toi des bruits de talons, donc tu sais que c'est rare qu'un gars de 130 kg, il met des talons. En général, c'est plutôt une femme plutôt fine et plutôt qui fait attention de bien s'habiller. Ouais. Donc tu le sais. Donc normalement, tu devrais dire, pourquoi j'ai envie de tourner la tête maintenant? Je suis marié, j'ai une femme extraordinaire, j'ai aucun manque au niveau intime, pourquoi j'ai besoin de regarder? C'est ça que tu devrais faire. Mais ne fais pas comme ça, t'entends les talons, tu te retournes, tu apprécies l'harmonie des formes, le plaisir de la vue. Exactement. Ouais. Mais le problème, c'est qu'après, tu trouves que ta femme, elle est de plus en plus moche. Ah bah oui, c'est le problème. Comme disent les Bretons, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. D'accord? Donc quand tu compares rien, ça t'arrive jamais. Est-ce que t'as comparé ta mère avec quelqu'un d'autre? Donc même le plaisir de la vue, il est dangereux. Parce que le plaisir de la vue, il crée des références. Et les références, c'est mauvais. C'est ça que la Torah l'a dit, le tahmod. Parce que le tahmod, ça veut dire que quand tu convoites, c'est que t'as comparé avec la tienne. Le tahmod, ne compare pas. Ne compare pas. Voilà, ta maison, elle est bien. Ma maison, elle est super. Moi, j'ai un lit pour dormir, j'ai un canapé, j'ai une femme qui m'aime, ça suffit. Ouais, mais l'autre, il a 8000 mètres carrés, l'autre, il a un yacht. Et alors, qui s'est tout fait avec son yacht? Qu'est-ce que je fais? Et cette logique-là, c'est que l'impulsion de la Avera, ouais, c'est que elle doit être maîtrisée. Donc, quand quelqu'un, il va casser son Yetzerara du mauvais ratson, d'accord? C'est-à-dire qu'il a envie de faire le Kriyat Shema vite, il va le faire doucement. Oui. Il a envie de faire la Mida, il va la lire doucement. Moi, j'ai un sidour, spécial. Maintenant, je m'oblige, je connais la Mida, mais je m'oblige à lire chaque mot lettre par lettre. C'est plus long. Mais je m'oblige. Mais c'est dur, parce que je connais par cœur. D'accord? C'est pareil quand quelqu'un te pose une question, des fois, tu as tout de suite compris où est-ce qu'il va en venir, mais tu laisses parler. Tu penses sur toi. Tu sais ce qu'il va dire, mais tu écoutes. Donc tu casses ta volonté de dire, oh, ça va, j'ai compris, c'est bon. Ouais. Comme ça, tu prends un temps pour l'enfant. L'enfant, il vient, il dit, maman, il faut que je te parle. Tu parles, écoute, non, tu t'assois, tu t'arrêtes, tu vois. Le monde, il s'arrête, non, je suis là. Je m'assois. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Voilà, maman. Alors, le copain, qui parle doucement. Alors, il te met tout le contexte. C'était dans la cour, et il pleuvait, et on est arrivé en retard. Ah, d'ailleurs, dans l'autobus, et toi, tu l'écoutes. Et le temps que tu consacres pour l'écouter, il va créer chez lui un réflexe, que lui aussi, il va se consacrer à ce que tu attends de lui. Donc tu crois que tu as perdu du temps, en fait, tu as investi. C'est comme ça. Comme si tu fais du copinage avec ton fils, eh ben c'est bien, parce que quand le copain il va lui dire de faire une bêtise, il dit « je peux pas parce que mon père il a confiance en moi ». Donc tu as créé un capital. Eh ben tu fais la même chose avec Hachem. Plus toi tu vas donner à ton Yetzeratov, plus toi tu vas donner à Hachem, moins tu vas donner à ton Satan. Maintenant, si toi tu suis tes pulsions, tes nerfs, tes colères, tes envies de dire des gros mots, et de regarder des choses dégueulasses, et de manger quand t'as faim, et de faire la brapa plus tard, et de faire de la 99 mort comment, donc t'as nourri ton Satan. Donc t'as un Satan qui est en pleine forme, et un Yetziratov qui est en train de mourir d'anorexie. Il voudrait une petite mitzvah. Après, tu dis, c'est marrant, j'ai pas la motivation dans la Torah, j'ai pas la motivation dans la prière. Mais il est mourant, ton yitzératog. Il est anorexique, il est en train de... Il est agonisant. Mais ton yitzératog, il a eu une pêche. Il casse les murs. Tu l'as nourri. Et quand quelqu'un, il est médagdek beotiot, en réalité, c'est quoi? C'est qu'il fait attention à chaque lettre, donc il a cassé le yitzérara. Ouais. Donc maintenant, il n'a pas besoin d'aller au Gehinam, qui est justement la machine à casser les mauvaises volontés, puisqu'il a déjà fait le travail de son vivant. Comme dans la vie. Vous savez, il y a l'école et il y a la vie. Vous savez, les gens, les leçons que tu peux avoir à l'école, tu peux les avoir dans la vie. Donc les gens qui ne veulent pas aller à l'école, ils vont apprendre la même chose dans la vie. La seule différence, c'est que dans la vie, les cicatrices ne sont pas virtuelles. Là, tu as raté une interro, tu as raté une interro. Tu dis, bon, ben, tu as zéro. Oh, pff, ça fait un peu l'angoisse. Et là, tu as fait un dépôt de bilan. Là, c'est 87 000 euros sur un seul produit. Il y en a encore 12 à arriver. Et toutes les mensualités sont étalées sur 10 ans. Et comme c'est en nom propre, on va te prendre ta maison. Tu dis, non, mais c'était juste un truc, c'était juste virtuel. Non, non, c'est concret. C'est ta société, c'est ton nom. Donc tu peux apprendre dans la vie, tu vas apprendre la même chose. Là, tu as appris la gestion dans la vie, et là, tu as appris la gestion à la fac. La seule différence, c'est que là, c'est du concret. C'est pareil, tu rigoles avec la vie, tu rigoles. Ah, mais là, c'est ta femme, là, tu rigoles pas. Là, tu réfléchis, là, tu es en train de détruire le moral. Non, mais je dis ça comme ça, ben bon, après, je m'excuse. Non, non, là, tu es en train, tu es ou en train de construire ton couple, ou en train de détruire ton couple. Alors, comme toi, tu as l'habitude que les gens, ils arrangent ton histoire, ou que toi-même, tu viens après pour réparer. Mais qui t'a dit que l'autre, il sera là pour réparer? Ben c'est exactement pareil. Comme tu fais avec ta femme, avec ton mari, avec les enfants, tu fais avec Hachem. Que perpétuellement, tu es en train de fabriquer ton capital. Maintenant, si déjà, avec le Kriyat Shema, le fait de lutter contre les pulsions, ça refroidit le Gehinam. Et pourquoi? Parce qu'il y a un grand Yetzerara dans le Kriyat Shema de lire vite. Mais tu sais quel grand Yetzerara il y a d'avoir la haine de quelqu'un? Tu sais quel grand Yetzerara il y a de mentir? Tu sais quel grand Yetzerara il y a de faire? Ça veut dire qu'envers l'homme, envers l'objet, il y a une forme de yetzara qui est très forte. Ouais. Mais envers l'autre, c'est encore plus fort. Ça va? Ça veut dire que si toi, quand tu te maîtrises de prier avec la kavana, ou quand tu te maîtrises de ne pas manger, parce que c'est pas cachère, c'est pas vrai, tu peux arriver, le gars, j'ai pas prévu, j'étais en cadavre pour rendre en compte un client, et j'ai pas pris à manger. Mais le seul truc qu'il y a, c'est des sandwichs de charcuterie avec la salade. Je dis j'enlève la salade ou j'enlève la charcuterie? Bah tu manges pas. Tu dis mais je vais pas rester sans manger quand même. Je vais pas rester sans manger depuis ce matin, je sais pas. Bah tu manges pas, tu manges pas, et c'est tout, tu manges pas. Je peux pas rester sans manger, j'ai besoin de sport, c'est pas cachère. Bah tu sais, sans bracha, je mange que d'un côté de la bouche. Tu trouves des solutions. Imagine, il n'y a rien. Donc c'est quoi ton Issayon? C'est est-ce que tous les engagements que tu as pris pour la cache-route, ils sont remis en cause par une fin de une journée? Peut-être que tu manges pas. Des fois tu prends l'avion, ils n'ont pas prévu le repas. Peut-être avoir pris le sandwich. Qu'est-ce que tu vas faire? Imagine, il n'y a rien. C'est-à-dire, monsieur, tous les plateaux sont distribués, vous allez mourir aujourd'hui. Ben tu manges pas. Ah, tu me dis, oui, mais ça fait un petit peu de la peine quand même, parce que la ta'ava. Et t'as pas compris. Quand tu casses la ta'ava, tu gagnes la liberté. Tu casses la ta'ava, tu casses la colère, tu tournes la tête. Ouais. Au moment des mauvaises pensées, tu as des bonnes pensées. Il te montre une pensée dégueulasse. Tu sais ce que tu fais? Tu récites une Mishnah dans ta tête. Ah, tu sais cette douleur-là, cette douleur de lutter contre une pulsion, tu sais comment ça s'appelle, Kapara? C'est ça, Kapara. Maintenant, pourquoi c'est de plus en plus dur de lutter contre les pulsions? Parce que tu es de plus en plus imprimé, attrapé dans tes mauvaises besoins. Mais le cas, il travaille tout le temps. Il n'a pas de problème. Quelle promesse? Alors, il disait, il faut savoir déchirer un gros chèque. Un petit chèque, un gros chèque. Un gros chèque. Un beau don de 25 000 euros, et que tu sais que c'est pas de l'argent cachère, on va le blanchir, on va le cachériser, on va prélever le malheur. C'est pas cachère. Le gars, il a des maisons closes, il te donne un don. Tu dis, moi, l'argent n'a pas d'odeur. Il faire avec l'argent. Tu peux faire quand même 23 000 euros, quand même. On va fermer les yeux. On va se raser la barbe, on va tout aller en boîte ce soir. Tu peux pas, tu peux pas, cet argent qui n'est pas caché. Tu t'habitues à déchirer un chèque. Tu casses la mida. Il dit, ce fait de casser la mida, vous voyez, il dit, c'est ça qui t'évite d'aller au Guéhinnom. C'est ça qui enlève l'enfer. Et c'est ça la capara. Maintenant, on a dit, dans les missionnautes que tu as, toi avec la matière, toi avec les événements, c'est 100 fois moins fort que les missionnautes que tu as avec les gens. D'accord ? Donc, quand tu as des épreuves avec les gens, et que tu casses ton yétérar, hein, c'est la plus grande capara qui existe. Par exemple, si tu as quelqu'un qui te met vraiment en colère, il te met vraiment en colère, et non seulement tu ne te mets pas en colère, mais tu le pardonnes tout de suite. Tout de suite, tu peux demander ce que tu veux acheter. Ce que tu dis, je veux que celui-là ait un bébé, que mon fils il a ça. Tu peux demander ce que tu veux. Parce que tu as développé un koar incroyable. Ça s'appelle l'aide gavroute. Donc, il prie. Tu n'as pas compris. Quand tu pries, c'est toi qui viens avec tes intérêts. Donc tes intérêts, ils te séparent de Dieu. Mais quand toi, tu as détruit tes intérêts en luttant contre ta colère, donc tu es en contact direct avec Hachem. Parce que tu as enlevé la ratita, tu as enlevé la séparation. Alors là, ta prière, c'est tu es devenu de Baba Salé pendant une seconde. Alors profite de cette seconde-là. Avant que tu le racontes et que tu te mets à frimer parce que tu dis, tu sais, j'étais en colère, ça y est, le bénéfice, il a disparu. Ouais. Mais sur le moment même, quand il y avait la colère, et tu as pris sur toi, fais une prière, profite. Parce que ça, c'est du cash. Ben, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un, il a compris que nous, on croit que l'autre, maintenant, il est là en train de m'énerver, et l'autre, j'ai des obligations, et l'autre, il me stresse, et l'autre, tu n'as pas compris, mais l'autre, c'est un outil de capara de folie. Mais l'autre, c'est un outil pour grandir de folie. Ouais. Les élèves, tu peux étudier, mais ce que les élèves, ils t'apportent, ça n'a rien à voir avec ce que les maîtres, ils t'apportent. Mita de la bretaille, d'accord. Si toi, tu dis, tu sais tout ce que j'ai fait pour mes enfants, mais le jour où tu vas te rendre compte de tout ce que tes enfants t'ont apporté, tu vas pas savoir qui c'est qui est en déficit, qui c'est qui doit à l'autre. Ouais, quand toi tu dis, tu sais ma femme, combien il lui a donné, tu sais mon mari, mais combien il t'a amené ton mari, combien il t'a supporté, combien il t'a soutenu, combien il t'a aidé, combien il t'a aimé. Mais c'est incalculable, c'est des dettes qui ne seront jamais remboursables. Ouais, c'est lui qui fait le calcul, qu'est-ce qu'il doit à ses parents? Il finira jamais. Vous me suivez ou non? Donc si toi tu es capable de le faire par rapport au bien, alors peut-être que tu dois réfléchir que même par rapport au mal, moi par exemple je ne fume pas, mais grâce à mon rab, je ne fume pas. Parce que je l'ai tellement vu fumer, il m'a enlevé la cigarette. Il a fumé pour moi. C'est compris ou non? Quand j'ai vu des gens qui mangeaient vite, j'ai appris à manger doucement. Quand j'ai vu des problèmes des gens qui ne payaient pas leurs fournisseurs, je paye les fournisseurs. Même moi, ils me disent, mais t'es malade, mais tu envoies l'argent déjà, je commande les livres, je paye. Après, il me dit, mais tu ne veux pas attendre qu'il arrive, le stock, tu ne veux pas de 50%. Pourquoi? Moi, je te donne. Ah, tu sais pourquoi je te paye maintenant? Comme ça, quand quelqu'un veut quelque chose, il me paye tout de suite. Mida Kenegued Mida. Alors que l'autre il dit, il les a déjà pris les livres, il les a déjà reçus, il les a déjà vendus, il les a déjà distribués, il a déjà vu du bénéfice, il a déjà réinvesti, il ne sait pas encore s'il va payer la facture. Il dit, oh, c'est évident, qui a dit, de toute façon il est bourré. Mais c'est une clala, c'est une malédiction. C'est toi qui a cassé la machine. Il y a des roues, cette roue, elle est en train de celle-là, c'est ça la bracha. Et toi, qu'est-ce que tu fais, t'enlèves la roue du milieu? Après, c'est pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi je veux que ça marche? Pourquoi ça va marcher sans enlever la roue du milieu? Ça, c'est exactement pareil. Quand toi, tu as compris que l'autre, écoutez bien, c'est pas seulement une épreuve. L'autre, c'est une occasion qu'Hachem t'a donnée. C'est-à-dire que tu peux grandir avec l'autre, tu peux évoluer avec l'autre, tu peux t'affiner avec l'autre. Mais tu dois dire merci à l'autre. Tu dois dire merci aux épreuves que l'autre t'a fait. Parce que la Hidgabrout, ce que tu vas prendre sur toi, c'est pour ça que les gens nerveux, ils rencontrent des gens qui les énervent. C'est pour ça que les gens radins, ils rencontrent des gens qui leur demandent. Parce que le bon Dieu, il veut que tu te répares, il veut que tu changes. Maintenant, si toi, tu prends, si tu es très nerveux et que tu parles calmement et tu travailles avec la personne et tu évolues avec la personne, mais tu sais ce mal au ventre que tu as de ne pas t'énerver, mais c'est ça la capara pour les fois que tu t'es énervé. Ça va ?
Proposition.
Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui te sépare d'Hachem ? C'est ça, c'est ces mauvaises midotes, c'est cette ouma, c'est cette colère, c'est ces nerfs, c'est cette bêtise. Donc en toi, tu vas brûler cette bêtise sur l'autel de tes midotes, mais tu n'as plus de séparation avec Hachem. C'est ça, l'ifne Hachem tit Aharu. Devant Hachem, vous allez vous purifier. Ah maintenant on a dit, mais ça c'est par rapport à toi et avec Hachem. Mais toi avec l'autre, encore plus. Ah maintenant tu vas dire, alors si l'autre il refuse. Mais tu as bien compris, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, « Akadosh Bourou, roé shemashpil atmo. » Si l'autre, il a refusé le pardon, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es rabaissé. C'est ça qu'on voulait. C'est que tu as utilisé l'autre pour travailler une mida qui s'appelle l'armodésie. Il dit, « Oumechaper l'arvonotav. » Pourquoi? Parce que, il avait dit, « Chez Kolzman, chez Adam Bezadon, Bezdono, en imchalim lo. » Tant quelqu'un, il est dans le Zadon, d'accord, il est mésine. Par exemple, quelqu'un qui te dit, moi, Shabbat, je suis méchalé Shabbat, et je m'en fiche du Shabbat. Et le Shabbat, c'est de la merde. Est-ce que celui-là, on peut lui pardonner le chidou Shabbat? Non. On ne peut pas. Vous voyez? Donc, il est obligé d'abord de sortir de son zadon, d'accord, c'est-à-dire de son mésine, pour qu'on envisage le pardon. Comme toi, quelqu'un qui te parle mal, qui t'insulte. Après, tu dis, tiens, en fait, je voulais présenter ma fille. Tu ne peux pas. Il te met un coup de poing, après, il te dit, tu peux me prêter 50 000? Tu sais, je t'aurais traité peut-être, mais là tu viens de me frapper. Comment je peux pas te traiter. Mais quel rapport? Ça c'est les coups, ça c'est la mitzvah. Il y a une mitzvah de prêter. Mais tu viens de me frapper, tu m'as mis un coup en pleine tête devant toute la famille. En plein la croupa de ma fille, tu m'as mis un coup de poing. Enfin, tu viens, tu sais, par ça j'ai des problèmes. Tu peux me trouver 50 000? C'est-à-dire que quand tu es dans les add-ons, on peut pas t'aider. Ça va? Comme quand il est dans la colère, on peut pas lui parler. De toute façon, il est pas là. Ben, c'est exactement pareil. Hachem il dit, je peux pas t'envoyer le pardon. Tant que toi, tu es encore dans la direction du Satan, tu es encore dans tes pulsions, tu es encore dans tes nerfs, tu es encore dans ton manque de confiance en toi, ton manque de maîtrise de toi-même, je ne peux pas te pardonner. Par contre, quand toi, tu t'es cassé, tu as été chez la personne, je t'en prie, méchila, je regrette, je veux plus, je veux pas. Même si l'autre ne veut pas, même si l'autre refuse. Mais toi, tu t'es cassé. Ouais. Il dit, Akadosh Bourou, roé shemat shpilatmo. Il a vu qu'il s'est rabaissé. Ou mechaper la volonta. Ouais. Donc ça faisait quoi? C'est que l'autre, maintenant vous avez compris, l'autre, c'est pas seulement un outil pour grandir, c'est aussi un outil de kapara. Donc maintenant on a compris que maintenant j'ai besoin de l'autre. Donc pourquoi les mitzvot ben adam la makom, ben adam la travero, Hachem il va pas être mochel, pourquoi? Parce que c'est fou, je vais t'enlever une occasion de kapara comme ça, mais il n'y a pas une meilleure occasion de kapara. C'est mieux. Parce qu'en vérité, de se rabaisser devant Hachem, quelque part, c'est un peu... C'est une image, c'est dur dans la tête. Mais devant l'autre, c'est dur, tu sens que... Tu sens, ouais. Quand tu pleures que tu as été méchant le Shabbat, tu pleures. Mais quand l'autre il te dit, écoute, va t'excuser, là, tu le sens que ça fait mal. Là. Et bien, cette douleur-là, c'est l'accaparement. C'est ça, l'accaparement. Ça s'appelle mitaktana, c'est une petite mort. D'accord? Maintenant, Hachem, il n'a pas seulement voulu que toi, par rapport à cette personne-là avec qui tu as un problème, tu as été excusé. Parce que vous avez bien compris maintenant que tous les gens que j'ai rencontrés et tous les gens avec qui j'ai eu des problèmes, en fin de compte, c'est tous des gens qui peuvent révéler en moi une solution à des mauvaises méthodes que j'ai cumulées. Donc, tu veux, non? Si je suis coléreux et que le bon Dieu m'envoie 63 personnes qui m'énervent, ça veut dire que j'ai 63 doses de colère à enlever grâce à 63 personnes qui m'énervent. C'est bon. Et si j'ai des gens qui me demandent ça, et si des gens qui me demandent des services, ça veut dire que moi je ne suis pas généreux, je ne suis pas sympathique, je ne suis pas solidaire, et le bon Dieu il va m'envoyer des gens jusqu'à ce que je trouve ça naturel d'être solidaire. C'est une mida. Donc je profite de l'autre pour travailler la mida. Maintenant, ce n'est pas seulement un par un, regardez bien, c'est même tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il dit le. Ça c'est le Keli Yakar aussi. Et là, j'ai terminé avec ça. Oh mince. Là, il faut l'entendre, ça c'est dommage de mourir sans ça, de passer qu'il faut ça. Il dit, je le retrouve, voilà, il dit comme ça. Ve'al kol ha'am aka'al yichaper, et sur tout le peuple rassemblé, il va expier, il dit, davka keshena asu ke'ila ahad. C'est-à-dire que la kapara, elle ne dépend pas seulement que tu t'es arrangé avec un, il faut qu'en plus, que tout le monde s'arrange avec tout le monde. C'est pour ça que dans les synagogues, on a l'habitude, la veille de Kippour, que chacun il demande Mechila à l'autre. Ouais. C'est pas évident de dire Mechila. Je sais même pas pourquoi, ni comment. Ouais. Mais en vérité, l'idée c'est quoi? C'est que quand Akadosh Baruch Hu il a créé une seule Neshama, c'est la Neshama d'Adar HaRishon. Et après les Neshamas ont été distribués. Maintenant on est tous séparés. Toi t'es là, il y a des Juifs au Kazakhstan, il y a des Juifs en Chine, il y a des Juifs en Israël que tu connais jamais, que tu ne connaîtras jamais, mais ils font quand même partie de la même Neshama qui s'appelle la Neshama de Adam HaRishon. Maintenant c'est marqué dans le Pasouk, ouais, que quand c'est marqué que Akash Bokhu, il est Dan de Rosh Hashanah dans la Mishnah, il dit, on apprend du pasouk, Kebne Meron, qu'il passe un par un, que chacun il va passer un par un devant Hachem, parce que c'est marqué Ayotzer Yahad Libam, et c'est quoi Libam? C'est leur intériorité. Yahad, il les a construits ensemble, donc tout le lève de tout Israël, il fait un. Amevin El Kolma ACM, et c'est lui qui comprend tous leurs actes. Et la Gemara dit, on les juge un par un, ouais, mais en une seule fois. C'est-à-dire que le bon Dieu, le Sikra Achat, c'est qu'Hachem, il voit tout le monde, ouais, mais il juge chacun séparément. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que c'est vrai que tu as ta vie, tu as ta famille, mais à part ça, tu fais partie du Ram Israël. C'est comme si toi, tu dis, écoute, mais j'ai mes choix, j'ai mes intérêts, j'ai ma personnalité, mais à part ça, tu fais partie d'une famille. Voilà. Ben, c'est la famille. Voilà. C'est la famille. Tu fais partie d'une famille. On dit, ah tiens, vous êtes de la famille. Alors, j'ai rien à voir avec eux, c'est tous des vous. Ah oui, je suis de partie de la famille. C'est le contraire aussi. Là-bas, Hachem, tu sais quoi, j'étais pas bien, j'étais mal, j'avais besoin, et grâce à Dieu, la famille, ils sont venus, chacun a fait quelque chose, c'est la famille. Tu vois, la famille, c'est une globalité, et la famille, c'est un ensemble d'individualités. Et bien, si tu élargis la famille au peuple, tout en Israël, c'est une seule famille. D'accord? Pour ça que quand il y a des choses en Israël, les juifs des États-Unis prient, on allume des veilleuses, trucs, on fait des pays pour des enfants qu'on ne connaît pas, parce que c'est vous faire hâte, c'est un seul corps. Maintenant, il est dit dans l'accapara, c'est pas seulement qu'il faut que tu fasses la paix avec toi-même, c'est-à-dire que tu enlèves la chatitza entre toi et Hachem, c'est pas seulement que tu dois enlever la chatitza, la séparation entre toi et ton prochain, il faut aussi que, que tout le monde enlève avec tout le monde. Je sais pas si vous... Ouais. C'est ça ce qu'il dit. Où est-ce qu'il est? Il dit, Dafka, Kishina'atu Keila Achat, lorsqu'ils formeront une seule assemblée, Liyot Va'aguda Achat, pour être reliés ensemble, Veyatu Shechem Echad La Avod Et Hashem, Al Akadosh Bochum Et Kabel Tshuvatam. C'est-à-dire que la teshuva de l'individu ne sera acceptée que quand il y aura le shalom dans la communauté. Il faut que tout le monde soit mochel à tout le monde. Pourquoi? Parce que Ayotzer Yahad Libam, il a créé tous leur cœur ensemble. C'est un seul cœur. Donc comment, qu'est-ce qu'Hachem il va c'est comme si tu donnes un costume à nettoyer, tu dis il y a une tache sur la manche, le gars il te rend la manche. Elle est propre. Tu dis mais attendez, je vais vous donner un costume. Tu m'as dit, tu m'as mis une tache sur la manche, tu as rendu la manche. Tu lui rends tout le costume. Tout le costume, d'accord? C'est que nous, au Hachem, quand on est en bonne santé, voilà, on doit aussi savoir qu'il y a des gens malades, on doit aussi savoir qu'on doit prier pour des autres. Comme je vous ai dit, quand tu mets les tefillin le matin, pense que tu les mets aussi pour quelqu'un, un autre juif qui ne les met pas. Ça ne t'enlève rien. Zénéné, visez l'Ochaser. Quand tu fais le kidouche, quand tu fais les halot, tu pries qu'Hachem y fasse que les bénis Israël se réveillent, les bâtis Israël se réveillent de faire les halot, et de faire la mitzvah khala. Qu'est-ce que ça coûte? C'est rien. Ouais. C'est pas seulement les mitzvot qui se voient et que tu as reçu un serfaï. Même les mitzvot qui se voient pas, il y a toi et toi-même. Quand tu rentres au mikvé, tu pries pour toutes les femmes d'Israël, que Midrash Hashem, chacune, même là-bas, celle jetée là-bas dans son kibbutz, Shomer HaTzair, qui mange du cochon tous les midis, elle te réveille un jour, elle va dire, c'est pas possible, elle va le faire.
C'est le mitzvah de Madame le Makom ou de Madame le Makom?
Les deux.
Les deux?
Oui. Non, ça veut dire que la personne, maintenant, en fait, elle a compris qu'elle n'est pas seulement un individu, elle fait partie d'un clan. Maintenant, si les Averot, malheureusement, elles retombent sur le clan, parce que quand Israël arrive, ils nous élasent, si Baruch Hashem et Mitzvot aussi, elles sont redistribuées, parce que Baruch Hashem, qu'il y a des gens qui étudient aux États-Unis, ça nous donne du mérite à nous, parce qu'on fait un seul peuple, alors la Teshuva aussi, elle doit être dans le clan. Et la Kapara, elle est dans le clan. Maintenant, plus il y a le Shalom, et plus la Kapara, elle est forte. Donc après, c'est chacun, quand il réfléchit, de dire, je veux profiter de cette force-là, c'est de profiter que quand on est dans une communauté, d'accord, et que Baruch Hashem, les gens, ils sont entre eux, ils font le shalom, ils font le bien, alors ils ont une puissance de pardon extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est difficile, encore une fois, de se séparer de sa matérialité par rapport à Hachem. C'est difficile de se séparer de sa matérialité quand je suis en conflit avec la personne, mais c'est aussi difficile de se séparer de sa matérialité quand c'est dans la communauté entière. Mais si chacun arrive à faire ça, c'est que chaque cellule, elle se recolle avec la cellule, alors tout l'organisme il va bien. Mais si Chas v'Shalom, une cellule elle va pas bien, elle meurt, elle tue celle d'après, elle tue celle d'à côté, on ne peut pas dire non, c'est loin de moi, c'est pas notre genre, c'est pas notre truc, parce que dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel système, chez des plus religieux, des moins religieux, les choses désapparaissent. Aujourd'hui on voit que ça n'a plus de logique. C'est même pas une logique de géographie, c'est même pas une logique d'école, c'est même pas une logique de protection. la Touma, elle peut rentrer n'importe où, n'importe comment, et les tsars, ils peuvent frapper n'importe où, n'importe comment. Mais si on est Béchalom, si on est tous ensemble, si on est tous devant Hachem, Atem et Tsavim, Ayom, ouais, c'est la meilleure capable. Et c'est ça que je vous attend. Il attend qu'il y ait cet ardoute et qu'il y ait cet amour entre nous, et après, dans Hachem, on passe tous une bonne année. Shana Tova, Shana Rabot, Rabot et Tovot. Alors le cours est dédié les Hinnoum Nishmat de Shaoul Ben Linda.
Amen.
Et aussi de Abraham Shimon Ben Simcha et de Eliyahu Ben Aisha et Yitzhak Ben Aisha.
Amen.
Et Myriam Dorit Bat Elida.
Amen.
Amen. Et Rina Bat Elida.
Amen.
25 octobre.